Salut le squad et bienvenue dans The DC Alternative, le seul podcast sur les films DC de la bande podcastienne. Ça va, on est les seuls à avoir fait tous les DC. Hein,
je pense.
on vérifie quand même. Je vais demander à nos avocats de vérifier quand même, on sait jamais. Je suis Sofiane et avec moi comme toujours Maxime.
Salut, salut.
Zoltan est en vacances, donc on l'a laissé tranquille. Et puis de toute façon, il n'avait pas encore son pass.
Le pass sanitaire, ouais.
Le pass sanitaire. Donc vous vous retrouvez avec les frères Maxisoff.
Toujours.
Voilà, l'équipe qui d'habitude vous parle des films, des séries Marvel. Hein, on a fait toutes les séries Marvel ensemble. Et on fait souvent les nouvelles sorties ensemble.
Ouais.
À chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, Zoltan n'est pas là, quoi.
Ah, il a un peu la super-héros fatigue en plus.
Ouais, je sais même pas s'il était chaud pour voir Suicide Squad de toute façon.
Je pense que c'est un des films qui peut le plus lui plaire dans ce qui sort dernièrement.
Ouais. Il est quand même venu pour Black Widow, donc c'est quand même pas mal.
C'est vrai qu'on l'a eu.
Cette semaine, on va vous parler de The Suicide Squad de James Gunn. Hein, parce qu'on vous avait déjà parlé de l'autre.
Ah oui.
On vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter notre épisode sur le premier Suicide Squad pour vous mettre dans l'ambiance et vous rappeler à quel point c'était de la merde.
Si vous avez envie de vous faire du mal, allez le réécouter.
Voilà. Non, en vrai, c'était un épisode assez intéressant,
oui,
surtout sur la production du film et tout. C'était assez.
Ah, il y a plein de choses à dire.
Il y avait pas mal de trucs à dire. Et là, il y a pas mal de trucs à dire. Bon, pour l'instant, et comme souvent quand c'est une nouvelle sortie, on n'a pas encore toutes les infos et tous ces trucs-là. Mais il y a quand même une production assez...
Ah, chaotique, ouais.
Ouais, pas autant chaotique que le premier.
Non.
Mais...
Différemment, en tout cas.
Voilà, on est là, quoi. Donc, une suite de Suicide Squad avec David Ayer était prévue à l'origine, avec un retour de Will Smith, qui avait déjà signé pour plusieurs films. Sauf que la production du premier, bon, bah voilà, hein. Et le film s'est fait démonter à la sortie.
Pourtant, il a cartonné, hein, en termes d'audience.
Raison. Ouais,
enfin, de box-office.
Il a bien marché, ouais. Mm. Ouais. Mais tu trouves pas que un des problèmes de en voyant le nouveau là, un des gros problèmes du premier aussi, c'est de ne pas avoir été rated R.
Ah bah oui, tu vois toutes les limites par rapport à ce film-là, c'était.
Parce que quand tu fais Suicide Squad, c'est le minimum d'être rated R.
Bah t'as besoin de sang, t'as besoin d'hémoglobine.
Et je pense que c'est
lâché,
à ce niveau-là que peut-être David Ayer, en plus du fait qu'ils lui ont remonté son film avec une équipe de pub qui a fait tout ça. Je pense qu'il peut se plaindre du fait qu'il l'ait forcé à faire un film par rated R et donc il a pas vraiment pu faire ce qu'il voulait, quoi.
Bah surtout que lui, pour une suite, si je dis pas de bêtises, il voulait absolument que ça soit une suite rated R, hein. C'était ça, hein.
Ouais.
Bah c'est qu'il avait lui-même compris, je pense, les limites du projet Suicide Squad à la base, quoi.
Mais bon, le gros problème que j'avais avec David Ayer, c'est son côté macho cool qui je sais pas, il avait un côté un peu avait des idées du cool qui sont un peu dépassées, on va dire. Ouais.
Après, ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que lui a vraiment voulu dans le film, ce qui a été retouché derrière.
Ouais.
Donc, mais après, quand tu vois un peu ses autres films, tu comprends un peu le bonhomme, quoi.
Ouais, c'est ça. J'ai vu aucun autre de ces films.
Bah, il y avait le film sur Netflix.
Bright qu'il a
ouais,
fait
c'est
depuis,
ça.
Hein.
Et bah, c'est un heureux hasard, mais hier soir, j'ai revu Training Day dont il a écrit le scénario.
Ah, quand même.
Donc, il n'était pas à la réal, c'était Anthony Fuqua, je crois.
Mm-hmm.
Mais il avait fait le scénario de Training Day, qui était quand même...
Training Day, c'était dit action et laisse Denzel tout faire.
C'est ça. Va prendre ton Oscar.
En gros, le film aurait été à chier si ça n'avait pas été Denzel. Non, mais c'est vrai, en
plus.
Ah bah,
t'as besoin d'un acteur
comme
ça.
Si c'était pas Denzel, tu vois, ça n'aurait pas été pareil. Ouais. Très bon film, mais je me demande si, parce que je l'ai vu à la sortie, je me demande s'il tient encore le coup, ouais, ça va.
Bah, pour l'avoir vu avec des personnes qui l'avaient pas vu hier, ouais.
Parce qu'il était un peu gros, la fin était un peu gros.
Oui, enfin, oui, c'est pas le meilleur,
c'est
mais t'as une ambiance dans le film qui fait que tu t'accroches du début à la fin quand même. Moi, je trouve que l'ambiance fonctionne toujours.
Est-ce que tu savais qu'à l'époque, donc, de la sortie de Suicide Squad, le premier, des films spin-off étaient prévus?
Ouais.
Donc, il y en avait un sur Deadshot, donc Will Smith.
Mm-hmm.
Qui entre nous n'était pas le personnage le plus passionnant de...
Non, bah c'était même peut-être le pire, hein, moi je trouve. Enfin, un de ceux qui m'avait le plus...
C'est un tueur, mais il aime sa fille.
Ouais.
Voilà, c'était ça son personnage.
Bah t'as un vrai parallèle dans celui-là qui montre bien
là,
les problèmes.
Là, justement, ils en font une sorte de parodie, une sorte de voilà, détournement total de ce personnage qui est plutôt intéressant. Et donc, il devait faire un film sur Deadshot, et un sur les Gotham Sirens, avec Harley Quinn, et avec David Ayer à la réalisation. Tu te rends compte? David Ayer qui a filmé le cul de Margot Robbie pendant tout le film, il veut faire les Sirens, quoi. T'imagines ce qu'il nous aurait fait Catwoman?
Ah, j'ai même pas envie d'y penser.
Avec Catwoman, mais t'imagines même pas ce qu'il nous aurait fait Catwoman.
Et ça, c'était en 2016, du coup.
Ouais,
dans
cette époque-là, voilà.
Ça a bien bougé depuis, quand même.
Voilà, ce projet, il se fera sans lui et évoluera pour devenir Birds of Prey, dont on a déjà parlé. Il faudrait que je me le refasse, un de ces quatre Birds of Prey.
Moi, je l'ai revu depuis et il se tient bien.
Il se tient bien. Okay.
Et c'est d'ailleurs, je pense, le meilleur film avec, avec Harley Quinn qu'on ait eu. Même celui-là, je trouvais un peu moins bon sur plein d'aspects.
Niveau Harley Quinn Ouais, ok. Et en 2017, Warner se met à chercher un nouveau réal et rêve d'engager Mel Gibson.
Bah en vrai, c'est pas illogique. Hein.
Pour Suicide Squad.
C'est pas illogique.
Pourquoi un mec.
Tu veux quelque chose de sulfureux, vas-y à fond. Quoi.
Ouais, voilà. Bon, on passe de la Passion du Christ à Suicide Squad. Enfin, c'est quand même un grand écart. Quand même
c'est
assez
étrange.
Conséquent.
C'est quand même étrange.
Ouais. Puis en plus, quand on sait, bon, les dossiers qui se trimballent, le mail, enfin, dès qu'il parle, c'est pour dire un truc antisémite ou un truc raciste.
Bon,
ou,
il s'est un peu calmé quand même.
Il s'est un peu calmé,
temps,
mais c'est pas.
Mais c'est clair que. Voilà. Il n'est plus dans les petits papiers d'Hollywood.
Devine qui était parmi les premiers choix.
Pour le casting ou pour la réal?
Trois mots. David S. Goyer.
Il est de retour.
Il est de retour dans tous les putains de films de super-héros qu'on fait. Il y a ce connard de David S. Goyer.
Dès que c'est DC, il est dans le coin.
Pendant ce temps, un autre connard dont on... Bon, je suis méchant avec là. Un autre gars dont on parle souvent quand il y a des films de super-héros, Zach Penn, qui a écrit X-Men 2, X-Men 3, et qui a co-écrit Avengers, c'est Ready Player One. Il est engagé pour écrire le script, donc c'était lui qui devait faire le script.
D'accord.
Bon, voilà, ça devait être Zach Penn, David. Le truc d'une autre époque, tu sais, t'as l'impression de revenir... Ouais.
Avec Mel Gibson à la réal, du
avec
coup.
Mel Gibson à la réal. En août 2018, on nous disait encore que Will Smith, Margot Robbie et Jared Leto devaient revenir. Donc on aurait pu avoir Jared.
Et même Viola Davis, je crois, qui avait signé pour plusieurs films aussi.
Je sais pas, je sais qu'elle, c'est James Gunn qui a demandé à ce qu'elle revienne. Il voulait absolument à ce que.
Bah, c'était une des réussites du premier film, donc c'est pas illogique. Hein.
Donc c'est le réalisateur de The Accountant et The Way Back avec Ben Affleck, là, deux films avec Ben Affleck, Gavin O'Connor, qui est engagé pour écrire et réaliser le film. Black Adam devait apparaître et être le méchant principal avec The Rock dans le rôle titre.
Oh là 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 là.
Qu'est-ce que t'en penses?
Oh, ça me parle pas du tout.
T'aurais pas aimé
non.
The Rock contre John Cena, ça te tentait pas là comme
si,
ça?
Si, j'ai déjà vu la WWE, je t'avoue. J'aurais préféré voir autre chose.
Ouais. Début octobre, Gavin O'Connor est obligé de quitter le projet. Enfin, il est pas obligé de quitter le projet, il se barre plutôt vénère en fait, à vrai dire. Parce que la Warner a décidé de greenlight Birds of Prey. Qui apparemment avait une histoire très similaire à son script, avec Harley Quinn. En gros, ils ont décidé de faire un film parallèle avec Harley Quinn, et de piquer plus ou moins toutes ses idées. De prendre ce que lui, il a écrit pour Harley Quinn et de se barrer. Warner. Donc lui, il s'est barré, genre, bon, bah, c'est pas possible.
Oui, bah, normal.
Voilà. Et là, on entre dans le vrai, là. Parce que c'est là que James Gunn est engagé. Et avant de vous parler de James Gunn, je vais boire un peu d'eau. Ah, revenons un peu sur cette histoire parce que c'est le bordel. Tu te rappelles?
Oh oui, je m'en souviens.
Tu te rappelles le bordel que c'était sur Twitter quand James Gunn s'est fait virer
par les ultra,
par les alt-right.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Donc en juillet 2018, James Gunn se moque beaucoup de Donald Trump sur Twitter. C'est un peu son truc. Donc l'alt-right américaine, qui est un peu, ce serait un peu comme si les fans de Zemmour en France, on va dire, un light-right, c'est un peu les mecs comme ça.
On est vraiment dans l'extrême droite un peu sombre et obscure.
Là, l'extrême droite un peu sombre et obscure, mais qui se la joue cool et accessible aux jeunes.
Ça fait mal de dire ça.
Mais c'est vrai.
Mais t'as raison.
C'est ça qui a fait élire Trump au final. Hein, donc, et donc, ils décident de, ce groupuscule décide de le prendre, d'en faire une cible. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont fouiller dans son passé.
Ouais.
Voilà, ils vont fouiller jusqu'en 2008. Pour trouver des tweets où il faisait des blagues un peu problématiques. C'est vrai que ces tweets et ces blagues, hein, et c'est le premier à le dire d'ailleurs. Oui. Hein, il s'est excusé, etc. Il a dit, il n'y a pas d'excuse, je suis désolé. Voilà, enfin, ils sont allés rechercher ça. C'est un truc dont je ne suis pas fan dans la culture actuelle.
Ouais, c'est très spécial. Hein,
Par exemple, ça revient souvent aux États-Unis où il y a Saturday Night Live. Et il y a chaque année, il y a des jeunes comédiens qui rejoignent Saturday Night Live, qui sortent un peu de nulle part. Et deux fois, là, c'est arrivé, où ils ont signé pour Saturday Night Live, des gens sont allés sur leur Twitter, ont recherché des trucs vieux de 10 ans, et ils se sont fait virer de Saturday Night Live à cause de ça.
Ouais, ouais.
Et ça, je trouve que se faire virer pour des trucs que t'as... Parce qu'il faut, surtout au niveau de l'humour, faut vraiment mettre ça dans le contexte, c'est que l'humour évolue tout le temps.
Et du Twitter de cette époque-là, qui avait rien à voir avec ce que
l'humour est tout le temps en train d'évoluer. Donc un truc qui était pas du tout choquant à cette époque-là, l'est de nos jours, et c'est normal, parce qu'on évolue en tant que société. Mais c'est pas une raison pour juger les gens qui faisaient cet humour à l'époque.
Je suis bien d'accord avec toi.
Tu vois, tu peux pas dire à cette personne, ah regarde, nous de nos jours, on fait pas ça.
Même si avec le regard actuel, ça peut être condamnable.
C'est
et
très intéressant,
vraiment,
bien sûr, tout à fait. Mais de là à aller ruiner la carrière de quelqu'un sous prétexte que cette personne a fait une blague sur les handicapés, sur, enfin, tu vois, une blague limite, quoi, tu vois. Je trouve ça un peu, surtout quand c'est très vieux, tu vois, que c'est pas un truc que la personne a fait récemment. Et par exemple, dernièrement, je me suis amusé à, c'est un exemple qui a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Je me suis remis à lire les vieux Dragon Ball. Mm-hmm. Tu sais, les vieux mangas Dragon Ball. Donc les premiers, hein, quand Sangoku est encore petit. Et il y a des blagues de cul.
Ah bah, de toute façon, il y en a toujours eu.
Mais super limite, mais genre, Tortue Géniale, dans, à peu près dans chaque chapitre, il va te faire un truc où tu te dis c'est hallucinant. Et quand j'étais petit, que je lisais ça, ça me choquait pas, ça me faisait rire.
Mais non, tu t'en rendais même pas compte.
Alors
en fait.
Que de nos jours, avec tout ce qu'il y a eu de nos jours, avec le mouvement féministe, etc., on a ce recul de se dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux pervers dégueulasse ?» Alors qu'à l'époque, ça passait comme une lettre à la poste, c'était pas un problème, tu vois. Et c'est pas pour ça qu'on va aller voir Akira Toriyama et lui dire que c'est une grosse merde, parce que dans les années 80, il a écrit ça, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez complexe comme question, mais... Bah, si je me souviens bien, les tweets de Gunn, c'était des trucs un peu...
Pédophile.
Un peu, ouais, un peu pédophilie et compagnie, mais il faut se dire qu'à l'époque, lui...
Avec Dan Harmon, hein, si je me trompe pas. Hein, c'était des vidéos, une vidéo qu'il avait fait avec Dan Harmon, où il faisait une sorte de faux viol pour rigoler, comme ça.
Il faut se dire qu'à l'époque, lui, il bossait chez Trauma, et qu'il y a quand même un humour très particulier, et que c'était dans un contexte aussi où je crois que lui allait pas très bien à cette époque-là.
Puis en 2008, on avait encore l'humour...
Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le Twitter de 2008 n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et tu pouvais te permettre de dire des choses sans que ça soit rendu, entre guillemets, public. Même si ton compte était public, tout le monde n'avait pas accès à ça, parce que c'était une autre manière de fonctionner sur Twitter. C'est plus le même réseau social, donc c'est vrai que c'est problématique.
Mais si une personne admet... Ok, il y a 10 ans, j'ai dit ça et je regrette, je suis désolé, je le ferai plus jamais. Faut pas ruiner sa carrière à cette personne. Faut laisser aux gens le temps de changer, le temps d'évoluer, le temps de grandir. Sinon on brûle tout de suite gens comme des sorcières, en fait, à chaque fois que...
C'est sûr que, en tout cas, cet épisode lui a vraiment permis, lui, je pense, de s'en rendre compte, James Gunn, de faire plus attention, parce que tu regardes son Twitter maintenant, il continue d'être très actif, mais plus de la même manière, même s'il continue de faire des vannes, de clasher Trump et compagnie. Enfin, un peu moins maintenant, vu qu'il...
Parce que un truc que j'aime bien avec James Gunn, c'est qu'il est très proche des gens qui lui parlent sur Twitter, tu vois, il va beaucoup parler, un peu comme Rian Johnson, d'ailleurs.
Même sur son Insta, il fait énormément de choses où il demande aux gens de lui poser des questions, et il répond vraiment très franchement et de manière très directe, quoi. Il prend pas de pincettes, et tu peux ne pas prendre de pincettes et quand même rester avoir un discours en dehors du moule bien préétabli, quoi.
Donc Disney tombe dans le panneau, parce que Disney, même temps, c'est une entreprise très familiale, hein. Là, s'il y a bien une boîte à laquelle il faut pas faire ce genre de choses, c'est Disney, parce qu'ils comptent à leur image plus que tout.
C'est
l'image Disney. Quand tu vas à Disneyland, il faut que tu sois dans un autre monde, faut que tu sois bien traité, faut que tu sois ceci, cela, parce que c'est Disney. Faut que quand tu penses Disney, t'aies le sourire et que t'aies envie de vider tes poches. C'est comme ça que ça marche. Forcément, ils l'ont viré, et c'est un peu étonnant.
C'est allé très très vite, d'ailleurs.
C'est allé super vite, je me rappelle.
Je pense que s'il y avait eu d'autres cas avant Gunn, je pense que même Kevin Feige, je pense, aurait pu dire, attendez un peu, on voit comment ça se passe, que ça se tasse peut-être un peu, voir comment ça se passe, et il serait peut-être resté, il serait peut-être même jamais allé faire ce film-là chez DC, quoi, parce que il aurait peut-être jamais eu l'opportunité d'aller le faire.
Non. Il l'aurait pas fait, il avait signé pour Guardians 3. Et il devait gérer la partie cosmique du MCU, hein, faut pas oublier.
Sur Infinity War Endgame en partie,
ouais. C'était lui qui était censé gérer tout le côté cosmique dans l'espace et tout le tralala. Et il le fait très bien.
Mais il continue de le faire très bien.
C'est lui qui a ouvert les portes à ça. Disney se prend un raz-de-marée de mauvaises réactions de la part même des réalisateurs et acteurs de la franchise, surtout Dave Bautista.
Qui a été très, 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 très virulent et qui a continué de défendre James Gunn corps et âme.
C'était le premier à se lâcher vraiment. Et le dernier, c'était Chris Pratt, parce que les autres ont tous signé.
Tout le casting a vraiment suivi. Donc,
tout le casting a
avec
signé.
Chris Pratt en
a
dernier.
Signé et a parlé sur Twitter. Mais Chris Pratt, il a ce côté très. Il est très chrétien. Voilà, on va le placer comme ça.
Oui, c'est
très
une
républicain,
manière de le dire.
Chrétien, très.
Un peu plus rangé que les autres, en tout cas.
Voilà.
Du coup, il était un petit peu plus sur la réserve, mais il avait aussi pris position.
Je préférerais boire une bière avec James Gunn qu'avec Chris Pratt.
Je crois que moi aussi.
Ou avec Dave Bautista.
Oh, largement.
Une pétition est lancée et obtient 400 000 signatures. C'est pas mal, hein.
Comme quoi, les pétitions, ça peut encore fonctionner de nos jours.
Et là, direct, ces petits malins de Warner, Eh ben ils vont le choper sous le nez. Mais direct, hein, ça s'est fait très très rapidement. Je crois que c'était en quelques jours où il se fait virer. Warner l'engage pour faire Suicide Squad et il se fait engager.
C'est ça.
C'était en quelques semaines, en une semaine ou deux, ouais, hein, ça s'est fait.
Ça
c'était très
vite,
très très rapide. Je me rappelle, à chaque fois on voulait en parler dans le podcast, mais ça arrêtait pas d'évoluer.
On savait même plus quoi dire.
Sa seule demande, il a dit je veux bien le faire, mais à une seule condition, c'est que ce soit arrêté d'art. Donc moins de 16 en France. Hein.
En France, c'est y a pas vraiment d'équivalent parce qu'aux États-Unis, rated R, c'est interdit au moins de 17 ans
17,
avec un accompagnement.
Ouais, voilà,
donc, c'est un truc un peu bizarre, mais.
Warner était très réticent à l'origine, mais c'était James Gunn. Ils avaient l'occasion d'avoir James Gunn. C'est comme Paris là. Ils ont un très bon gardien. Ils ont l'occasion d'avoir un jeune gardien. Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois très bien.
Ils ont aucune raison d'avoir deux gardiens, mais l'autre il est gratuit.
La moitié des
l'autre il est gratuit. L'autre il est gratuit. Donc c'est... je fais Dragon Ball et football aujourd'hui. Alors là, ça n'a rien à voir avec d'habitude. Souvent, j'ai d'ailleurs ce petit commentaire. T'aimes bien le foot, toi ? Avec ta tête d'intello, là. Et oui. Et oui, j'aime bien le foot.
Tous les deux le foot.
Allez,
le
LOSC, encore champion de France.
Allez, Nantes.
Voilà. Il y a qu'une seule personne. Enfin, il y a qu'un seul groupe de personnes qui n'étaient pas contents de cette histoire de James Gunn. Bah, c'est les fans du premier Suicide Squad. Les fans d'ailleurs, il y en a. Hein.
Ils existent.
Ils veulent qu'on release the Ayer Cut, d'ailleurs. Ils sont là, quoi.
C'est un combat. Hein,
ils existent. C'est très étrange parce que même David Ayer te dirait moi, je peux pas aimer le film qui est sorti, donc comment vous pouvez aimer ce film. Tu vois,
après, lui, il continue à.
C'est comme les fans de Dune de Lynch. Lynch, il aime pas le film, tu vois, mais il y a quand même des fans du Dune de Lynch. Quoi.
Mais il l'a même carrément rejeté.
Ah oui,
il
l'a
même,
rejeté
il
quand elle a ressorti. Non, c'était quand c'est sorti en VHS.
Adam Smithy.
Adam Smithy, ouais. Et donc, les seuls qui sont pas contents, c'est ces gens-là. Et ils se plaignent de l'arrivée d'un mec du MCU dans la franchise, en disant que l'humour va tout... Que l'humour MCU va ruiner totalement, comme ça a été le cas dans Justice League.
Ah bah, clairement.
Pour l'instant... L'histoire leur donne raison.
Ouais, enfin, c'est pas les mêmes personnes, Joshua et James Gunn, quand même.
Mais à noter tout de même que James Gunn a eu le soutien public de David Ayer.
Mais ça m'étonne pas, parce que...
Tout de suite est sorti pour dire « Je suis très fier que, que James Gunn fasse le film et tout, et que s'il y a bien une personne qui peut reprendre le flambeau, c'est James Gunn. » Donc quand même sympa de la part de Ayer, qui a l'air un peu en guéguerre souvent contre les studios, tu vois, donc on pouvait se dire encore son bébé Suicide Squad,
c'est ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que Gunn lui a pas craché dessus dans son propre film. Il y a quelques petites références, mais ça reste quand même très léger. Il n'y a pas de dénigrement du travail qui a été fait avant, même si on fait bien comprendre que ce film là on fait les choses comme elles auraient dû être faites dès le début.
Il n'y a pas de moment où on te dit tu te rappelles,
pas de moquerie directe,
ouais.
C'est ça,
non.
Et c'est bien, enfin je trouve que c'est assez mature justement de balayer ce qui a été fait et de partir sur complètement autre chose, quoi.
Donc le lendemain de l'annonce, Disney réengage Gunn pour Guardians of the Galaxy volume 3. Tout est bien, qui finit bien. Donc James Gunn est de retour.
Après, il n'y a pas de mauvais buzz. Hein.
Et le seul problème que ça a causé, c'est que Guardians a été repoussé limite d'un an au final.
Même plus que ça.
Ouais.
Et entre temps, ils nous ont calé du coup le Holiday Special qui va, je pense, permettre de faire attendre un petit peu.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça.
Qui sera un téléfilm de 40 minutes. Il y a eu quelques infos l'autre jour d'ailleurs.
Avec tout le cast en animation.
Ah non, c'est un vrai téléfilm. Ils présentent ça comme un téléfilm. Du coup, je pense qu'il sortira directement sur Disney+.
Guardians serait une très bonne série.
Oui, c'est vrai.
Avec un cast comme ça.
Surtout que le cast des Guardians, il peut évoluer de manière très simple.
Ouais. Puis c'est des personnages qui sont bons à développer. On n'a toujours pas découvert ce qui est arrivé à Rocket, par exemple. Tu vois, tu pourrais faire un arc d'une saison là-dessus. Gunn décide d'enfin voir le premier film. Et il défend David d'ailleurs.
Il a été engagé sans avoir. Enfin, il a accepté de voir Suicide Squad sans avoir jamais vu.
Il l'avait jamais
c'est
vu.
Bon, ça.
Il l'avait jamais vu. Donc au moins, il n'est pas venu pour dire je vais faire ma version et tout. Ce qui
ça
a été
l'air
ce qu'il y a eu avant.
Sa manière de faire du cinoche de toute façon.
Non, il a l'air assez amical avec tout le monde, James Gunn, j'ai l'impression, comme gars.
Après, on ne sait pas comment
ça
se passe.
Non, bien sûr.
Mais
hein,
en tout cas, en termes d'image, c'est vrai que c'est pas un mec qui a l'air d'être un.
Ouais, il est pas en partie en guéguerre.
Il est là pour faire du cinéma et de faire des bons films, quoi.
Et il défend, je crois qu'il l'a fait sur Twitter d'ailleurs, il est allé dire j'ai enfin vu Suicide Squad. Et il a dit, il y a des bonnes choses comme ça et ça et ça.
Bah, ça explique peut-être certains retours du casting.
Exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il a dit, et la meilleure chose du film, c'est le casting, je demande absolument à ce que Margot Robbie revienne en Harley Quinn. Bien sûr, Warner s'est frotté les mains.
Youpi!
Parce que eux, ils attendaient que ça, qu'on leur dise ça. Et là, il a demandé à ce que Amanda Waller, donc la Amanda Waller de Viola Davis, revienne aussi. Qui, il est vrai, était un très bon casting. Hein,
oui, bah, elle va super bien en personnage. Ouais, ça...
Il s'est basé sur le run de John Ostrander, sur le Suicide Squad dans les années 80. Tu l'as lu ou...
Non, mais qui est visiblement la référence. Je pense que je vais me le lire parce que avec tout ce que j'ai vu dans ce film, là, ça me donne envie de m'intéresser plus
80,
à la Suicide Squad. Ah bah oui, carrément.
Très
actionneur années 80.
Ouais. Il me fait penser à ce que Expendables voudrait faire.
Un peu, ouais.
Tu vois ?
Sauf que c'est grand public, quoi.
Expendables, ça a moins marché parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait faire un bon scénario et des bons dialogues. Et donc, c'était un peu plus juste « Ah, regardez, il y a des stars ensemble dans la même pièce. » Mais... au niveau de l'action et tout, je me suis dit, ah, c'est ce que Expendables aurait dû être il y a 10-15 ans. Là, c'est sorti quand? 10 ans maintenant.
Bah, c'était le premier, fin 2000, ouais, je pense, un truc comme ça.
Le premier est sorti en moins de plus de 10 ans.
2007, 2008, ça doit être dans
ces c'est vraiment un truc comme ça qu'ils auraient dû faire avec Expendables. Et au final, il y a Stallone dans le film. Donc.
C'est vrai qu'il y a Stallone.
Il décide de ne pas faire une suite, ni un reboot. Donc un requel.
Ouais, moi je parlerai de soft reboot.
Ou un requel.
Un requel.
Il voulait en fait faire une sorte de side story dans son propre univers. C'est un peu ça.
C'est un peu ça parce qu'en fait, il y a quasiment aucune référence aux autres films DC, voire même aucune. T'as des références à l'univers DC, mais pas aux films DC parce que tant tu.
Dans aucun film DC, il y a Idris Elba qui fout Superman en urgence.
Il a bien compris l'univers DC, il l'aime, il le retranscrit comme il faut, mais il l'adapte pas à un truc qui est compris dans d'autres films d'un univers chez DC, quoi.
Il y a plein de persos que Gunn aurait voulu mettre dans le film.
Ça m'étonne pas.
Tu vas voir, ça va être quelque chose. Donc il y a Sportsmaster, je connais pas Sportsmaster.
Moi non plus,
c'est un mec qui fait du sport, j'imagine. Son super pouvoir, c'est d'être très bon au sport. Doug Welder, j'imagine que lui, il a un chien. Batmite. Hein ?
Ça, ça aurait été marrant.
Voilà, Batmite dans ce film. Je sais pas comment ça aurait fonctionné. Tu peux expliquer Batmite ou tu veux que je le fasse?
Je préfère que tu le fasses.
Alors Batmite, c'est une sorte de mini Batman qui vole et qui vient d'un univers parallèle
où
en fait c'est le Batman de son univers ou un truc comme ça.
Dans le multivers, ouais.
Voilà, et c'est un personnage très qui est souvent utilisé quand même, même dans les trucs sérieux. De temps en temps, il y a Batmite qui se pointe. Ça fait toujours très.
Il n'était pas dans les films Lego. Enfin, il n'y avait pas une mini référence.
Il y a une référence à Batman à Batmite dans Lego Batman. Je me trompe pas. Livewire. C'est des éclairs, tu te rappelles pas?
Ah si, oui, bah oui, je l'ai même en figurine Lego.
Man-Bat.
Ça aurait été marrant, ça.
Je pense que ça aurait dû être à la place de King Shark qui se posait la question.
Un truc humanoïde avec une
Weasel,
croisée avec
un... KG Beast.
Ok.
Que l'on voit dans Batman v Superman.
Ah bon?
Qui jouait par le gars de Art Laker à vif.
Ah oui, c'est vrai.
Je crois que c'était son le nom du personnage.
Ouais, juste au générique.
Ouais,
quoi.
Voilà. Solomon Grundy, Born on a Monday. ça aurait été super.
Ça aurait pu être marrant.
C'est un peu le Hulk pour les gens qui connaissent pas.
Ah, c'est clairement un Hulk zombie.
Qui est basé sur une sorte de rime pour enfants. Sauf que c'est une version Hulk méchant. Hein,
c'est entre Frankenstein et Hulk, mais vraiment un vilain de l'univers DC. Ouais. Enfin, plus même de Batman, hein, il me semble.
Qui est pas toujours vilain. Ça dépend comment il est utilisé dans les trucs.
Okay.
Quelquefois, Killer Frost.
Killer Frost ou Killer Croc?
Killer Frost.
Frost.
La fille. Killer Frost avec son flingue. Non, qui balance des.
Ouais,
mais si, elle est dans Justice League et tout. Elle a le même pouvoir que Mr. Freeze, mais elle le balance avec ses doigts.
Ok.
Et en parlant de Mr. Freeze, Mr. Freeze était dans la liste. Voilà. Et enfin, en dernier, le Black Manta qui apparaît dans Aquaman. Avec le même acteur.
Ok.
Ça aurait été.
Yahya Abdul-Mateen 2.
Bien joué.
Qui joue aussi dans Watchmen, c'est pour ça que je l'ai
retenu. Oui, il joue dans Watchmen, en effet. Et qu'un personnage qui était assez bien utilisé, mais il mérite d'avoir un peu plus, parce que c'était juste toi, mon papa, il s'est fait tuer par Aquaman.
Moi, j'avais détesté ce personnage.
T'avais pas aimé ce personnage?
Le personnage dans Aquaman, enfin, de toute façon, Aquaman, j'avais eu beaucoup de mal, mais...
Ouais.
Mais j'avais pas trop accroché avec... même avec son jeu, alors que c'est un acteur que j'ai bien aimé après, mais... Bon.
Bon, je connais pas le budget du film.
Il n'a pas été...
Il n'est pas marqué.
Ok.
Voilà. Mais c'est un peu trop tôt pour parler de box-office.
Ouais, on est jour 1.
Donc je propose qu'on passe au film.
Let's go. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. I don't wanna do your dirty work.
work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah.
On commence avec le recrutement de Savant, incarné par Michael Rooker, dont le pouvoir est de tuer des oiseaux avec une balle. Donc dès le début, on apprend plus ou moins qu'il y a eu plusieurs Suicide Squad. Hein.
C'est ça.
En gros, entre les deux, si c'est vraiment une suite, il y a eu plein de versions différentes de Suicide Squad.
Les 15 premières minutes du film, c'est vraiment, on réintroduit la Task Force X, du coup c'est comme ça qu'ils l'appellent, parce que c'est plus vraiment la Suicide Squad, c'est autre chose. Enfin, c'est toujours la même chose, mais on lui donne un autre nom pour te faire comprendre qu'on n'est plus dans le film d'avant, quoi. Et les 15 premières minutes, c'est vraiment... on réintroduit le concept, sans training montage, sans toutes les petites musiques qu'on avait.
Ouais, on suit Michael Rooker comme si ça allait être lui le personnage principal du film. Et on le voit vraiment donc découvrir la Suicide Squad. Mais en même temps, nous, c'est un truc qu'on a déjà plus ou moins vu.
C'est ça.
Donc ça servait à rien non plus de nous faire une redite, parce que putain, le gros problème du premier, c'était quand même pendant 20 minutes.
Ah bah c'est un training, enfin les 30 premières minutes, c'est un montage successif de chaque personnage.
Et avec la chanson qui va avec et tout, c'était pas possible quoi.
C'était de la torture.
C'était pas possible du tout. Donc là c'est plus ou moins la B-team, hein, la deuxième équipe qu'on suit. On pense que c'est la première équipe, mais en fait il y a deux équipes.
Si t'as vu aucune bande-annonce, tu te dis ouais, c'est ça la nouvelle équipe quoi.
Et cette équipe consiste de Weasel, donc qui est incarné par Sean Gunn, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Sean Gunn qui se retrouve, on le voit un moment dans le film. Hein.
Oui. Bah, il joue
les cheveux rasés avec un...
Il joue Calendarman, qui est un vilain qui est...
Ah, il y a Calendarman c'est lui.
Il joue Calendarman.
C'est pour ça qu'il est d'accord.
Qui est un vilain de Batman.
D'un
très
vilain
connu,
de Batman, qui
notamment dans un long Halloween et
Un long Halloween et aussi qui... dans Batman Arkham City, il était en bas et tu es allé lui parler à certaines dates et il disait un truc différent. C'était assez cool, je me rappelle. Boomerang. Captain Boomerang qui est de retour. Qui était mon préféré du film précédent. Parce que beaucoup de gens ont adoré Harley Quinn, par exemple, dans le premier. C'était un peu le... Tu te rappelles, hein, Halloween, tout le monde s'est déguisé en Harley Quinn, et c'était le truc... Moi, j'avais un gros problème avec la manière dont Harley était filmée, écrite...
Surtout écrite, parce que filmée, de toute façon, c'était abject, donc la façon dont elle était écrite, c'était... Enfin, pour moi, c'était le truc qui m'avait le plus...
C'est genre, oh, regardez, je suis folle, c'est trop cool.
Ouais, c'est ça.
C'est genre vraiment...
C'était presque de l'écriture... Pas gamin, mais enfin ça faisait
adolescent.
Très adolescent. Voilà,
adolescent qui écrit une fanfiction sur l'univers de Batman.
Son fantasme sur Harley Quinn.
Ouais, voilà. Et donc j'avais un peu de problème avec ça. Et le truc que j'avais bien aimé avec Bird of Prey, c'était qu'on retrouvait enfin une Harley Quinn. Et puis en plus, Margot Robbie méritait vraiment d'avoir enfin un personnage à sa hauteur. Parce que Margot Robbie, c'est. Sans déconner, c'est le meilleur choix de casting que DC a fait depuis Heath Ledger, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est pas impossible que ce soit ça.
Ouais. Bon, après, il y en aura qui me diront qu'Henri Cavill est un très bon choix.
C'est vrai que.
Ils
ont quelques très bons choix de casting, mais c'est vrai que.
Un personnage qui est resté
dans le temps, c'est ça. C'est elle.
Dans 10 ans, on dira Tony Stark, Robert Downey Jr. et elle, quoi. Enfin, tu vois, c'est vrai. Au final, ceux qui ont vraiment marqué leur rôle.
Je sais pas si tu te souviens, mais quand on réfléchissait aux bannières pour plan séquence, on cherchait un personnage DC et on s'est tous mis d'accord sur Harley Quinn parce qu'au final, c'est le personnage qui représente le mieux cet univers au cinéma.
Je voulais sortir des Batman Superman. Je voulais pourquoi pas aussi avoir un peu de féminité dans la bannière. Et on s'est regardé, genre ouais, c'est vrai Harley Quinn.
Surtout que Birds of Prey était sorti,
c'est l'avenir Harley Quinn. Je pense qu'elle peut encore avoir 5 films derrière elle, hein, Margot Robbie.
Alors j'ai cru comprendre qu'elle comptait plus ou moins arrêter après ce film-là. Bah, je peux la comprendre parce que c'est vrai qu'elle a peut-être envie de faire d'autres choses.
Mais elle
a une très belle carrière à côté, hein. C'est pas le problème, bien sûr, mais
une fois que quelqu'un va se pointer en disant je vais peut-être te prendre ton rôle, que là elle va revenir, elle va dire allez hop, vous me faites un bon chèque.
Elle fera une petite apparition dans The Flash ou un truc comme ça et puis voilà.
Non mais ça dépend. Bon, Suicide Squad 2, je pense qu'au box-office ça va pas marcher.
Bah, le contexte fait que ça risque d'être compliqué. En tout cas, en France, ça ferait
deux films avec elle à l'affiche d'ici.
Qui se plantent.
Quoi.
Bah, en fait, le problème, c'est que est-ce qu'ils se plantent en termes de. Enfin, ils se plantent en termes de box-office, mais en termes
de réception critique,
c'est autre chose. Donc, c'est toujours le problème. Quoi. Est-ce que c'est le pognon?
C'est marrant,
est-ce
parce que le pire film des trois, c'est celui qui a le plus marché.
Malheureusement.
C'est souvent comme ça. Hein. Et donc, les gens, ils préfèrent Harley Quinn en mini-short avec ses
les instincts primaires, ça.
Ouais, voilà.
Malheureusement.
Faudrait que je me refasse Birds of Prey. Faudrait vraiment que je me le refasse pour que ça, ça parce que c'est un peu flou dans ma tête.
Bah il y a quelques gimmicks de mise en scène qui sont un peu relou parce qu'au final c'est des trucs que t'as déjà vu plein de fois, mais en termes de message dans le film, moi je trouve qu'il y a des super trucs, il y a des scènes d'action qui sont réalisées d'ailleurs par les équipes de qui étaient sur les John Wick et compagnie. Enfin, ouais. il y a du joli boulot, il y a des bonnes idées. Enfin, c'est un film qui mérite quoi.
Pour revenir à Suicide Squad 2, je trouve qu'au niveau de la réal, il y a quand même un monde de différence entre avec David Ayer.
C'est vraiment un film où tu peux t'éclater à regarder chaque plan où c'est construit.
Chaque plan est bien
quoi.
Foutu.
Même, j'ai trouvé la photo vraiment intéressante à plein de moments différents.
Le premier, un des tout premiers plans du film, c'est dans une flaque avec Michael Rooker dedans et la caméra tourne tout doucement jusqu'à. Elle fait un putain de 360, enfin fait vraiment un truc de fou avec la caméra.
Et je pense pas que ça soit du.
Et
du
je me suis dit putain, non, c'était un des premiers plans du film. Et j'ai dit ce plan, il est déjà plus beau que l'intégralité du film précédent.
Il y a même un plan avec sur le combat entre Rick Flag et Peacemaker qui est hyper intéressant, où t'as toute la première partie du combat qui est reflété dans le casque de Peacemaker.
Oui, ça aussi, c'est très intéressant, tu vois.
Qui déforme un peu les.
Il tente des trucs, quoi.
Ça fait des choses intéressantes, quoi. Tu sens que James Gunn, il a des idées, il sait faire du cinéma, quoi.
Donc pour revenir à Captain Boomerang, parce que c'est vrai qu'on est parti. Captain Boomerang, c'était un de mes préférés dans le film précédent, et Jay Courtney, qui est pas un des meilleurs acteurs au monde, qui est un peu un de ces acteurs bland.
Il a un bon capital sympathie, on va dire.
Là, je le trouvais bien, je l'aimais bien, et j'étais content de le revoir. Bon, hélas, il ne fait pas très long feu. Et d'ailleurs, tu m'as mis une petite tape sur la jambe quand il est mort.
J'ai pensé à toi.
Ouais. Et ouais, donc, au revoir, Captain Boomerang, merci pour tout.
RIP.
On a Javelin. Qui a un javelot. On nous explique jamais pourquoi. On nous explique pas le pouvoir de son javelot. Il y a pas vraiment de truc. Non, lui, non. Quand il va dire à Harley Quinn pourquoi elle a besoin du javelot, il meurt avant.
Une très bonne scène
donc,
d'ailleurs.
Ouais, c'était très marrant. Mongal, donc qui est. Merde, comment c'est Mongul ?
Mongul, ouais, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. C'est la version féminine de Mongul ou sa femme ou sa fille.
Ouais, je sais plus. C'est peut-être sa fille. Ouais, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais.
Donc Mongul, c'est un mec d'une autre planète, c'est ça ?
Bah oui, c'est extraterrestre.
Ouais, c'est un mec d'une autre planète contre qui Superman se bat assez régulièrement et qui sait plutôt bien se battre. Hein, qui sait
ouais,
dire ça.
Il y a un certain pouvoir. Ouais. Ouais.
C'est pas Darkseid non plus, mais il sait... voilà, quoi. Donc j'étais un peu étonné aussi de la voir mourir aussi rapidement comme une merde. Elle meurt parce qu'elle s'est accrochée à un hélicoptère et l'hélicoptère lui tombe dessus. Et voilà. Comment il meurt Boomerang déjà ? Il se prend plein de flèches ?
Ouais, je crois qu'il se fait... Bah, il prend plein d'éclats.
Plein d'éclats, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il tient encore son Boomerang jusqu'à la fin. On a Harley, donc Harley Quinn. Et quand je l'ai vu, je me suis dit... parce que en fait, dès que j'ai vu la première team, je pense que tout le monde pensera comme moi, on s'est dit, ils vont crever, quoi. Mais une fois qu'Harley Quinn est arrivée, je dis, merde, bon, ok, Boomerang et Harley Quinn, ils vont s'en sortir. Et non, Boomerang est mort.
Ouais, je pensais aussi que Boomerang passerait, parce que c'était un des recasts.
La seule qui a un plot armor... C'est une armure de plot, c'est-à-dire que il y a des personnages comme ça, tu sais, ils peuvent pas mourir. Tu sais, quand Batman est dans la scène, tu sais que s'il y a Batman,
bien sûr,
Batman va pas crever, quoi, tu vois. Bah, Harley Quinn, c'est la seule dans ce film qui avait cette carte, ce Joker-là, justement. J'ai pas fait exprès de faire un jeu de mots, mais qui avait cette carte de pouvoir dire, moi, il y a personne qui peut me tuer, mais sinon tout le reste du cast,
ah bah tu
pouvais mourir.
C'est
quoi.
Ce que disait James Gunn.
Ouais, et c'est vrai au final.
À personne.
On nous vend souvent ce genre de truc. Hein. Ouais. Ils vont tous mourir, tu sais, les films d'horreur un peu. Ouais, ils vont tous mourir et tout.
Mais ce qui est bien dans ce film, c'est que t'en as plein qui meurent, mais c'est rarement au moment auquel tu t'y attends. C'est ça que j'ai bien aimé.
Ouais, ouais. Bon, à part au début où tu sens que
tu sens la douille venir.
On a TDK.
Très très drôle aussi.
Qui est incarné par Nathan Fillion.
Ouais.
Donc Nathan Fillion, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est surtout Firefly, hein, voilà. Et il n'a pas fait d'autres trucs de films de super-héros, lui. Ah ouais, ça m'étonne, tiens. Ah, il joue dans Buffy aussi.
Ah, ça,
forcément,
ça,
c'est un fan de Whedon. Enfin, il a bossé dans pas mal de projets de Whedon. Donc lui, son pouvoir, c'est que ses bras se séparent de son corps.
C'est ça.
Et mettre des claques aux gens.
Il peut contrôler ses bras à distance.
Il peut contrôler ses bras à distance, mais il fait rien avec à part mettre des petites claques aux gens.
Et crier,
voilà. Donc lui, il était assez drôle. Blackguard, qui est incarné par Pete Davidson, donc de Saturday Night Live, qui est le comédien américain jeune à la mode en ce moment, vraiment un peu comme...
Un peu hype, ouais.
Un peu comme Adam Sandler à son époque, qui était... Il a fait The King of Staten Island, qu'il faut encore que je vois. Il
j'ai
paraît
pas
qu'il,
vu non
paraît
plus,
qu'il
mais
est sympa. Lui, il a une vie très spéciale. Son père est mort pendant le 11 septembre, c'était un pompier.
Ah, ok.
et il était tout bébé et il en a fait sa comédie, tu vois. Il en rigole beaucoup de ce genre de truc, ouais. Et tu vois, ouais, il fait beaucoup de blagues sur le sujet.
Construit avec ça. Voilà.
Et aussi c'est un gros stoner, donc il fait beaucoup de blagues autour de ça. Et enfin, il y a Rick Flag qui est de retour. Cool.
Eh ben n'empêche que Rick Flag, qui était un des personnages qui était un peu inintéressant dans le premier film, il devient quand même vachement plus intéressant.
Ouais.
Non, c'est pas extraordinaire, je suis d'accord avec toi. Mais il a un capital sympathie, je trouve, dans celui-là, qui est quand même vachement plus important, et t'as plus envie de le suivre, quoi. Donc avec son petit t-shirt jaune après.
Avec son petit t-shirt jaune. Ils meurent tous de manière diverse et variée. C'est quoi la mort qui t'a le plus dans les premiers, là?
Bah, je pense qu'en fait, c'est Michael Rooker, au final.
Ouais. qui essaie, la tête.
Qui veut fuir, quoi.
Puis même, c'est très bien, c'est très joli, l'eau avec le sang dedans. C'est, tu sens qu'il se fait plaisir avec ce genre
Et puis,
de
c'est
truc.
Marrant, il s'amuse à écrire plein de trucs. Enfin, t'as forcément fait gaffe, mais il y a plein de moments différents où il écrit des trucs comme des espèces de chapitrages du film.
Oui, oui, oui.
Et le film commence là-dessus avec le sang de ce personnage qui écrit Warner Bros. Pictures présent, quoi. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir?
Il fait ça pendant tout le film, des sortes de petits chapitres.
Avec plein de petites idées différentes. Des fois, ça passe bien mieux que d'autres, mais c'est marrant.
Non, j'ai bien aimé.
Et ça fait très comics pour le coup, tu vois. Il adapte du comics et il sait l'adapter comme il faut et lui rendre en hommage, entre guillemets, tout en faisant autre chose, quoi.
Je pense que c'était DK ma préférée.
Ouais.
Parce qu'ils sont en train de lui défoncer les mains et lui, il est là. Ah
en même temps, il met des baffes.
Il sert à rien, quoi. Et ouais, c'est là que Gunn pose les règles, quoi. Tout le monde peut mourir sauf Harley. Et Harley hérite du javelot, au passage. Au même moment, donc, on a la A-Team, cette fois, l'agence sous risque.
La vraie.
qui arrive de l'autre côté de l'île. Avec Bloodsport, donc incarné par Idris Elba, et comme je disais en sortant du film, tiens, c'est la première fois que je trouve qu'Idris Elba est bon dans un film.
True story.
Ouais, parce que Idris Elba, grand fan depuis The Wire, donc c'est niveau série, pas de problème. Hein. J'ai pas vu Luther par contre, mais niveau série, pas de problème. Mais depuis qu'il est devenu acteur de cinéma.
Ah, c'est un peu tristouné, quoi.
Ouais, c'est pas trop ça, Idris Elba. J'attends encore.
Bah, j'ai pas d'exemple qui me vient
là,
en
je
tête.
Trouve bien.
Ah, bah ouais, il a du charisme et il a ce côté un peu rude qui marche bien pour le perso et qui marche quand même vachement mieux parce que ce qu'on disait un peu tout à l'heure, il y a quand même tout un parallèle avec le personnage de Will Smith qui était Deadshot. Donc là, c'est Bloodsport.
Bon, apparemment. Donc Will Smith a pas pu revenir à cause d'une histoire de calendrier, si je me trompe pas.
Oui, je crois que c'est ça.
Donc logiquement, il aurait dû revenir et reprendre son rôle de Deadshot. Donc quand ils se sont retrouvés sans lui, ils ont décidé de recast, tout simplement, à l'origine. Et là, Idris Elba et James Gunn se sont rendus compte que c'était pas cool de leur part de faire ça à Will Smith, parce que Will Smith avait envie de faire le film. Et si un jour il veut revenir dans le DCU,
ça laissait la porte ouverte au personnage plus tard.
Donc ils ont décidé de renommer le personnage. Tout en gardant, par exemple, la plupart des... Enfin, c'est le même perso.
Ah bah, la relation à la
fille... Dans
les
grandes lignes, mais même, il tire sur des gens. Enfin, tu vois, il a des armes.
Avec un casque.
Voilà.
C'est vraiment la même chose, hein, oui.
C'est exactement le même personnage, quoi.
Mais t'as une scène qui montre toute la différence d'écriture entre les deux personnages. C'est que... Enfin, la relation à la fille, je trouve que c'est vraiment l'exemple parfait pour te montrer comment tu fais des vrais méchants auxquels tu peux t'attacher, quoi.
Et c'est là que c'est bien d'être traité d'art aussi.
Quoi. Bah oui, bien sûr.
Parce que t'as pas que de la violence.
T'as aussi des gros mots.
Et là, dans cette scène, ça fonctionne très très bien. Ils se balancent des insultes. Fuck you, fuck you, fuck you. Enfin, c'est vraiment pas ça. Parce que quand tu vois la bande-annonce, on s'était plaint de ça, justement. On avait dit, ouais, la bande-annonce avec le délire, ouais, ta fille, faut la sauver. Mais c'est exactement le même. Pourquoi ils ont mis ça dans la bande-annonce? Ça m'énerve, en fait. Parce que ça nous fait penser au premier film.
Mais c'était peut-être un peu voulu aussi. Hein.
C'est une redite du premier film, ouais, mais il faut aussi donner envie de voir le film quand même, tu vois.
Bah ouais.
Et là, ils font un 180.
Ah, c'est un bon 180.
Ouais, c'est sympa.
Et
c'est...
même s'il reste motivé par les mêmes choses que le personnage de Will Smith, il le fait complètement différemment. Et en plus, t'as toute cette relation avec le personnage de Ratcatcher qui marche bien aussi et qui a un peu cette filiation père-fille qui est retranscrite et qui te montre que même si c'est un fiefé connard qui est capable de mettre une bastos à Superman, il a quand même un cœur, tu vois.
Oui,
c'est
donc le rat qu'il dit. Il a mis une balle de kryptonite.
Il a envoyé une bastos
à Superman.
Dans Sup, quoi.
J'arrive pas à imaginer.
Sup a fini aux urgences.
J'arrive pas à imaginer. C'est ça le gros problème que j'ai avec le DCU par moment. c'est que j'arrive pas à imaginer Henry Cavill ou Ben Affleck dans certains. Par exemple, je trouvais que les scènes avec Ben Affleck dans Suicide Squad, ça sortait un peu vraiment.
Ah bah ça gâchait tout.
Ça faisait trop bizarre.
Le film se gâchait.
Le Joker
lui-même.
dans sa voiture violette là. Non.
J'avais oublié ça aussi.
Mais oui. Ensuite, on a King Shark. Mm. Donc, je sais pas qui a fait le motion capture, mais.
J'ai regardé tout à l'heure, mais c'est un acteur.
C'est pas quelqu'un
connu. Pas méga connu. C'est un humoriste américain qui a fait un peu de cinéma aussi, mais rien de d'exceptionnel ou de très connu, quoi.
King Shark qui avec la voix de Sylvester Stallone.
Sylvestre.
Donc, c'est le 8, 9, 10. 11e film de Sylvester Stallone dont je parle dans un podcast.
T'as compté Gardien?
Oui. C'est lui. C'est de loin l'acteur dont j'ai le plus parlé. Et je crois plus que Robert Downey Jr. et que. Au final, j'ai plus parlé de Stallone, ça me dérange pas.
Bah franchement, il y a pire.
Entre nous.
Surtout qu'il y a tous les Rocky dedans.
Non,
quoi.
Franchement, ça me dérange pas du tout. Ensuite, on a Peacemaker, donc incarné par John Cena. Il y a une fête à côté, en fait, si vous entendez des cris et des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a l'anniversaire de ma voisine. On va les rejoindre après. Qu'est-ce que t'en penses de John Cena dans ce film?
Oh, moi, je suis...
Très bien casté, hein, ouais, ça marche bien, ça fonctionne très bien parce que... Putain, qu'est-ce qu'il est baraqué, quoi.
Ah ouais.
Ça explose par tous les côtés. C'est vraiment un truc de malade.
Ça dégouline de muscles, quoi.
Quand on le voit dans son petit slip, là, à un moment, mais...
Ah ouais, bah on voit bien. Il est bien rempli, le slip. Hein.
Ça marche bien parce qu'il a un peu une tête de con, John Cena, quoi.
Ah bah,
il a pas l'air très malin.
Une bonne tête de débile américain.
Voilà, il a pas l'air très malin. Et je l'ai toujours trouvé bon dans les films.
Mais il est plus malin qu'il en a l'air, je pense.
Oui, c'est un businessman, je suis sûr. Bien sûr. Il doit gérer sa carrière, lui, à mon avis, en comme The Rock, hein, tu vois.
Oui, mais, c'est ça. Ouais. Ils ont des profils très similaires dans l'industrie.
Très bonne surprise, John Cena, dans ce film, au final.
C'est pas celui qui a le plus de lignes de dialogue, mais à chaque fois, ça fait mouche.
Disons que c'est le personnage. Bon, il sait Peacemaker, son but c'est de garder la paix à tout prix, quitte à tuer femme et enfant.
Avec le concept.
C'est génial. C'est l'Amérique, quoi. En fait, il représente totalement l'Amérique. C'est une sorte de Captain America bizarre, quoi. Tu vois.
Son costume, en plus, James Gunn lui fait assumer le costume à fond avec le
mais oui,
l'espèce de
les
casque
toilettes.
Qui ressemble à un chiotte, quoi. Et ça marche, quoi.
C'est fou que ce que James Gunn a osé, parce que quand on voyait les images de tournage et les premières images et tout, on disait, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce costume?
C'est bizarre, ouais.
Ah. Mais il va falloir qu'on s'y habitue à ça, parce que on faisait la même remarque quand on avait vu Zachary Levi.
En Shazam. Ouais, c'est vrai.
Quand il y a eu la première image, on disait, oh mon dieu, il a l'air ridicule. Et au final, quand on le voit à l'écran, ça passe.
Ça passe super bien, oui. Ouais. Bah après, c'est suspension d'incrédulité. Quand le film est bon, en général, tu te fais au costume, quoi. Enfin,
mais là, il y a Paul Cadotman qui est habillé avec cette tenue super. En plus, on dirait qu'elle est très portée, qu'elle est pas blanche. Tu sens qu'elle est usée, quoi.
Il dort avec, quoi.
T'as ça, enfin, au niveau des... T'as Peter Capaldi qui a des trucs sur le crâne, c'est jamais expliqué non plus.
Non.
On sait pas pourquoi Peacemaker, il s'habille comme ça. Enfin, il y a pas...
La série HBO s'en occupera.
Voilà, qu'est-ce que son casque représente. En fait, on s'en fout.
Non, on s'en fout, c'est ça.
Viens, on les prend tels qu'ils sont dans les comics et on les met dans un film.
C'est assumé, quoi.
Et il n'y a pas beaucoup... Il y a très, très peu de films de comics où on prend vraiment le truc de la page et on le met dedans.
Parce que je pense à James Gunn, mais même sur Les Gardiens, il avait quand même fait quelques compromis sur certains personnages, notamment le personnage de Dave Bautista.
Ouais, qui n'a rien à voir.
Exactement comme ça. Je pense qu'en fait,
il réécrit les personnages pour leur ajouter de l'humanité qu'il n'y a pas dans les comics. C'est ça son truc.
C'est sa vraie force, leur ajouter
de l'humain. Et je pense que par exemple, le côté. Comment il s'appelle Drax qui ne peut pas comprendre les blagues au premier degré. Enfin, tu vois, et qui prend tout au premier degré, pardon. Enfin, je pense que c'est une invention de James Gunn et ça fonctionne. Mm. Et ouais, c'est ça. C'est son truc, quoi.
Bah, il sait développer des personnages et les écrire pour...
Et il connaît le matériel d'origine.
Surtout, ouais.
Il a pas besoin d'inventer des trucs, au final.
Et il est pas là non plus pour rendre hommage en se mettant à genoux et en faisant des salamalecs dans tous les sens. C'est vraiment... Il sait le matériau de base qu'il utilise, il sait l'adapter et il l'adapte comme il faut, quoi.
Ouais.
Et il sait le retranscrire parce que c'est un autre média, donc il y a des compromis à faire, des choses à faire. Mais tu regardes le costume de Peacemaker, c'est vraiment l'exemple parfait, quoi. Genre, le personnage, il est vraiment stricto sensu comme dans les comics. Mais il a quand même ce truc en plus avec le costume qui passe vachement bien, quoi.
Il faut avoir un peu de recul aussi, c'est ça le truc. C'est que je pense que James Gunn se rend compte, ce que certains fans de comics ne se rendent pas forcément compte, c'est du ridicule des comics par moment. Faut le savoir quand
et
même.
De certains costumes justement.
Voilà, ouais. C'est ridicule par moment. Et si on adapte ça comme ça, bah ça aura l'air d'être ridicule. Et je pense qu'ils ont dû lui dire, mais enfin ils auront l'air ridicule. Et James Gunn, il a dû répondre exactement.
C'est le but, ouais. Exactement. Bah regarde le grand vilain du film, quoi. C'est exactement la même chose. Voilà. Hein,
C'est une étoile de mer géante.
Voilà.
C'est en train de se transformer en lettre d'amour pour James Gunn parce que en fait James Gunn, moi il m'avait un peu perdu avec Guardians 2.
Bah moi avec la première fois j'avais été perdu et avec le recul en le revoyant je vois ce qu'il a voulu faire dans ce film là même s'il me parle moins.
Ouais.
C'est vrai que
je pense qu'il a pris un peu en otage le film.
Ah bah bien sûr oui, ouais. Il a mis ses petits trucs à lui dedans, oui,
un peu trop. Voilà.
Non mais ça c'est vrai, oui.
Ouais. Mais sinon j'attendais vraiment le retour de Dan James Gunn parce que Guardians pour moi ça restera toujours un des meilleurs du MCU. On l'a un peu oublié, mis de côté de nos jours, mais rappelle-toi quand on l'a vu la première fois.
C'était une petite claque.
Il y a eu Avengers, il y a eu Guardians, hein, c'était les deux. Hein,
c'était un vrai renouveau dans le MCU.
Ouais, complètement. Polka Dot Man, incarné par je sais plus qui, le mec qui jouait un gars dans The Dark Knight.
Ouais. Qui s'appelle.
Qui joue aussi dans Ant-Man.
David
Malchan. Il a vraiment une tête, lui. Et il joue aussi dans Ant-Man, hein, c'est ça.
Ouais, il joue dans Ant-Man.
Il joue avec son accent russe. Avec son accent russe. Un des bros de. Un des potes d'Ant-Man.
Ouais, c'est ça.
Polka Dot Man, donc, qui. Son super pouvoir, c'est d'imaginer sa mère.
Ça, c'est une vanne qui est vraiment excellente.
Ça marche très bien, ça. Il imaginait sa mère. Et, en fait, bon, bah, il balance des pastilles.
Des pastilles de couleur.
De couleur.
Enfin, oui.
Qui font fondre tout, en fait, qui brûlent tout et qui tuent tout. Et aussi, il en a trop en lui, donc ça ressort par moments. Il ressemble à Elephant Man avec des néons.
Il est obligé de dégueuler deux fois par jour le trop-plein.
Il est obligé de dégueuler toutes ses pastilles. Il y a un truc qui revient dans le film, c'est les parents. Ça revient beaucoup dans
souvent
le film.
Chez James Gunn d'ailleurs.
Oui, mais là c'est vraiment putain. Il y a des mauvais exemples. Les parents de Bloodsport, son père l'a forcé à se battre, l'a enfermé dans une boîte avec des rats,
dans une cage,
l'a forcé à se battre, à apprendre à tirer, à faire ceci, à faire cela. Apparemment, Peacemaker, c'est la même chose.
Ouais, bah oui.
Quand ils font le speech pour présenter Peacemaker, ils répètent tout le speech qu'ils avaient fait pour présenter Bloodsport.
C'est ça.
Et je pense que c'est aussi James Gunn qui se moque de Deadshot et de tous ces personnages d'ici. Il y en a plein des personnages comme ça. Polka Dot Man, qui a eu sa mère qui l'a forcé à faire des expériences et des trucs comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à avoir des
sur lui et ses frères et sœurs.
Et ses frères et sœurs, dont certains sont morts. Hein,
c'est clairement dit, ouais.
Et on a Ratcatcher. Qui elle a eu un père cool, mais qui hélas avait un problème avec d'héroïne.
Ouais, c'est ça.
Et donc,
un père avec des failles, mais quand même un bon père.
Il avait quand même un bon fond. Clairement, James Gunn, il adore ça. Clairement, c'est vraiment son sujet.
Ah bah, les familles dysfonctionnelles.
La famille, tout ça. Sauf que là, il y a vraiment qu'un personnage qui est bien, qui est bon. Dans le fond. Peut-être Polka Dot encore. Mais non, il faut croire que c'est un psycho.
Ouais, il le dit lui-même. Hein,
c'est un psycho.
Elle lui dit d'ailleurs à un moment, je crois que c'était toi le fou. Mais oui,
ouais,
moi aussi. Ouais.
Donc, ouais, non, je crois que c'est Ratcatcher qui est un peu l'âme du.
Bah, en fait, tu vois presque pas ce qu'elle a de méchant, en fait. Si ce n'est qu'elle est en tôle au début du film, quoi.
Ouais, parce qu'elle a braqué quelqu'un avec des rats.
Oui, c'est ça. Parce qu'elle doit voler, quoi.
Ouais, voilà, mais sinon, tous les autres sont des connards.
Ah bah oui.
Voilà, il n'y a pas une seule fois, je veux dire, à la fin, ils décident ils ont des infos qui pourraient vraiment faire du mal au gouvernement américain, ils préfèrent l'utiliser pour se sortir de prison.
C'est ça.
C'est la carte, vous avez le droit de sortir de prison, quoi.
Ouais, ils s'en servent comme monnaie d'échange, quoi.
Exactement, donc c'est pas comme Guardians, où c'est des personnages qui sont un peu perdus, ils se mettent ensemble et ils découvrent que c'est une famille, et qu'au final, tu te rends compte que, oui, c'est des connards, mais ils ont tous un bon fond. Alors que là, c'est l'inverse.
Dans The Suicide Squad, ils ont un petit côté héroïque, mais qui est toujours contrebalancé avec le fait que, en fait, ils butent des gens sans aucune forme de.
Il y a une scène énorme où Peacemaker et Bloodsport se mettent à tuer chacun des gens d'une manière plus farfelue les unes que les autres. Tout ça pour arriver au final à découvrir que ils ont tué tous les rebelles qui auraient pu les aider, quoi. Ça, c'est génial. C'est vraiment, ils tirent avant de parler, quoi.
Et d'ailleurs, un des trucs qui fait que c'était des vrais méchants aussi, c'est qu'ils tirent pas sur des espèces de bestioles humanoïdes sans visage et que c'est des vrais gens sur qui ils tirent à chaque
gens,
fois
là, carrément là.
Et ça c'est a quand même vachement plus d'impact quoi.
C'est
ouais, mais sans parler du côté gore, c'est des humains donc c'est pas le même rapport que des espèces de gens, enfin bestioles, des mollusques comme on les avait appelés quoi.
Non, c'était pas des mollusques, c'était des hommes caviar.
Ah, les hommes caviar, c'est ça, t'as raison.
C'était les hommes caviar.
J'étais pas loin.
Et donc enfin, il y a Ratcatcher, qui est interprété par une comédienne, une actrice portugaise. Si
Daniela Melchior.
Très bien cette.
Ah ouais, moi j'ai
vraiment sympa.
Bien touché par son personnage.
Ouais. Puis même le côté. Elle s'endort tout le temps et tout. Enfin, tu vois, ils ont, il a réussi vraiment à mettre, à ce que chacun des personnages ait vraiment son propre truc. Mmh. Et un personnage aussi juste, c'est une fille qui a des rats, ils auraient pu en faire un truc bizarre, mais au final,
Bah là, ce côté un peu weirdo, tu vois, mais,
oui, mais
en même temps,
On pourrait imaginer que ce serait la fille qui veut parler à personne, etc. Ouais. Et au final, c'est la plus sympa du groupe, alors que c'est celle qui traîne avec les rats.
Ouais, elle va faire des câlins King Shark, quoi.
Ouais, voilà. On va parler de Bloodsport, c'est sa fille?
On en a un petit peu parlé, ouais.
Ok.
Bah, en fait, il y a quasiment qu'une seule scène avec, une seule scène avec les deux.
Ouais, il y a une seule scène entre Bloodsport
et sa fille.
Et après,
t'as un truc un peu mignon à la fin avec c'est mon papa, mon papa. Qui est le truc un petit peu plus. Bon, c'est une fin de film, forcément. On est quand même dans un film. Même si c'est pas grand public, ça reste quand même. Enfin, si,
c'est
grand public.
C'est un film de super-héros.
Voilà, c'est ça. Donc, t'as quand même le super vilain. Pour le coup, on peut le dire.
Je ne pense pas que Gunn soit vraiment si cynique que
ça. Ah non, bah je pense pas non plus.
Il a un bon, enfin,
Même s'il aime
dans ses films, il veut toujours parler plus ou moins d'amour de famille, quoi. Enfin,
même s'il a ce côté torturé, qu'il aime le crade, le sale, c'est quand même quelqu'un qui est pouvoir de l'amour, quoi.
Ouais. Et c'est marrant parce que je l'imagine beaucoup plus chez DC que chez Marvel. Après avoir vu ce qu'il fait des deux.
Ouais, c'est vrai.
Je pense que le catalogue DC et le fait que DC puisse faire des films à part de l'univers partagé, ça peut permettre plus de liberté à un mec comme James Gunn, plutôt que de s'obliger à faire partie d'un truc plus grand, quoi.
Je suis d'accord. Ouais. Et enfin, je vais peut-être dire un truc qui va.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Qui va en choquer certains, mais sur.
Je prépare mon verre.
Sur les 5-10 dernières années, je pense que c'est une des meilleures adaptations de comics. En tout cas, en termes d'adaptation du matériau de base et de respect de l'univers d'ici, en fait.
Ouais.
Tu vois, dans ce sens-là. Quoi.
C'est plein de références.
Ouais, mais je trouve pas que.
Mais c'est des références qui sont bien placées.
C'est ça, c'est pas ostentatoire, c'est pas pour en faire trop. Genre, au début du film, t'as une mini-scène où tu vois John Ostrander, du coup, qui est le mec qui a fait le principal run sur Suicide Squad. Ouais, il a un petit rôle, c'est vraiment cool. Un petit caméo en début de film. Mais en fait, ça passe tellement vite que tu t'en fous, tu vois. C'est pas forcé dessus, c'est pas des trucs qui durent 3 ans. Et au final, quand tu vois le vilain à la fin du film, c'est crédible parce que t'adaptes l'univers d'ici comme il doit être adapté, quoi. Avec des personnages crades, des personnages vilains et des personnages qui sont comme dans leur univers, quoi. Enfin, ouais. je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté véritable et. Ouais, ça, il a bien fait le taf, je trouve.
Je m'attendais pas du tout à voir Starro, mais en fait, si.
Bah c'est ça.
On s'est fait baiser. S'il nous avait pas mis Starro dans les bandes annonces,
c'est un peu dommage. Hein.
On le voyait à la fin d'une bande annonce, je me rappelle.
Bah, en fait, tu voyais.
Merde, c'est Starro.
Tu voyais un immense truc.
Non, ça se voyait que c'était Starro.
Sortir de
Jotunheim. Ouais.
Bah en fait, ça peut être que lui, quoi. Genre,
oui. C'est dommage.
C'est
ça aurait
dommage.
Été une super surprise.
Ouais, c'est clair.
Ils ont fait pareil avec Mechagodzilla aussi. Tu vois,
oui.
Dommage.
Surtout qu'en plus, tu t'es fait la réflexion en sortant du film, mais la dernière partie du film est super longue au final. Genre, le film a une structure assez bizarre parce que t'as 10-15 minutes de début, ensuite tu repars dans un flashback, tu repars ensuite dans l'action principale.
Ensuite, t'as le petit instant Harley dont on va parler.
C'est ça. T'as un petit ventre mou où
ensuite,
chacun
suis
un peu
deux
dans
teams.
Son coin.
Tu suis genre d'abord la première team qui pose les bombes en bas et ensuite t'as la deuxième team qui est en haut.
Et ça fait des allers-retours, des machins et t'as toujours pas Starro jusqu'à les 15-20 dernières minutes, tu vois, pas plus. Hein.
Donc la mission c'est de récupérer tous les dossiers sur Starro que les États-Unis ont gardé captifs sur l'île là, pour faire des expériences Donc Starro a été trouvé dans les... Le pauvre, c'est super triste qu'il dit Starro.
Ouais, en mourant là. Ouais. Oh là là.
C'est bon. J'étais heureux à regarder les étoiles. J'étais là genre putain le pauvre, il est devenu me faire. Ça faisait 30 ans qu'il était enfermé à faire des tests et des trucs. Donc moi à la place de Starro, bah je fais pareil. Bah, hein.
T'imagines, James Gunn arrive à te faire avoir de l'empathie pour une étoile de merde de l'espace.
C'est sa spécialité de donner, de prendre un truc con, un raton laveur, un truc comme ça, et de dire viens on va, voilà. Un arbre.
Il est fort avec ça. Il est très fort. Et puis il adore aller chercher des personnages très bizarres. Quoi.
Harley a son propre film dans le film.
Ouais.
Puisqu'elle a une histoire d'amour très courte avec El Presidente. Elle tue tout le monde sur I'm Just a Gigolo. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant éloignée de l'histoire principale, Harley Quinn. J'ai un peu la pression qu'il a écrit son film et qu'il a écrit une version avec Harley et sans Harley au cas où Margot Robbie reviendrait pas.
Bah, en plus, je sais pas si t'as vu passer ça dans les trucs qu'il a balancé pour la promo du film, mais James Gunn a dit, je crois que j'ai jamais bossé avec une actrice aussi incroyable que Margot Robbie. Enfin, pour lui, c'est l'actrice qui a le plus de talent avec qui il a travaillé.
Ah ouais,
et
carrément.
Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a toute une partie du film qui est un peu dédiée à elle et à son perso.
Zoé Saldana, appelle ton agent.
Ouais, mais... Et je peux le comprendre parce que, genre, t'as envie de faire vivre ce perso et de lui faire faire plein de trucs et
Margot
il se lâche.
Margot Robbie est absolument génial ici.
Ah, bah, elle est géniale.
Dans toutes les scènes où elle est. Mais franchement, je dis pas ça énormément dans ma carrière de podcasteur. Mais plus je vois Margot. Et Dieu sait ce que je détestais ce qu'elle était dans le premier film. Mais plus je la vois, et plus je me dis, sérieusement. Mettez-la dans tous les films, j'en ai rien à foutre. Vous avez trouvé le casting parfait et c'est tellement rare que... Et puis en plus, tu sens qu'elle s'éclate, elle fait des stunts elle-même. En plus, on le voit, hein, quand elle fait des trucs, ça se voit que c'est elle-même.
Je pense que c'est elle,
Quand elle fait le truc pour aller... pour sortir et avec son pied et la clé et tout, tu vois bien que c'est elle
la
qui
scène
fait tout
très
ça.
Cool, d'ailleurs. Et puis même toute la scène avec les fleurs derrière, enfin il y a un côté graphique qui
visuellement très intéressant et
il sait la mettre en valeur aussi quoi. Enfin,
voilà,
genre,
et je trouve que ça fait deux films qu'on la voit où elle est en valeur, elle est bien écrite, elle reste Harley Quinn, c'est-à-dire complètement à côté de ça, à côté de la plaque la plupart du temps.
Elle balance des répliques à des moments qui n'ont aucun sens.
Première phrase qu'elle dit en arrivant dans le film, c'est désolé,
j'étais parti chier.
Je faisais caca. En plus, Margot Robbie aussi, ça a pris le temps parce que j'avais l'impression que c'était une actrice qui était... Elle est magnifique. Et parfois, les gens sont tellement beaux qu'on voit pas le talent.
Tu vois?
Et elle, je la voyais dans Wolf of Wall Street et dans des films comme ça.
Ce film-là où...
Et je me disais, bon, elle est mise en valeur parce que sa beauté, ses grandes jambes, la blonde,
tout ça.
On
lui donne pas grand-chose à jouer non plus, quoi.
Dans Once Upon a Time in Hollywood, le rôle est écrit pour que
elle sublime le personnage, hein.
Mais c'est son
talent d'actrice, quoi.
Mais voilà, c'est pas... Tu peux aussi te dire, ils l'ont prise parce qu'elle est jolie, tu vois.
Ouais, mais moi, je pense pas.
Harley Quinn, c'est autre chose. Harley Quinn, elle s'est vraiment réapproprié le truc. On a fait son propre chose tout en restant fidèle à ce que...
Et ce qui est fort, c'est que nous, au final, on a 3 films avec Harley Quinn, la suite. Le personnage est réinventé, en tout cas graphiquement à chaque fois.
Graphiquement.
Enfin, visuellement, quoi. Elle n'a jamais le même style. Elle est toujours... Et même si on peut se douter que c'est plus ou moins la même Harley Quinn d'un film à l'autre... Bah, tu peux prendre chaque film indépendamment les uns des autres et ça marche vachement bien, quoi.
Quand elle est en magnifique robe de princesse avec des Doc Martens et qu'elle défonce tout le monde, enfin, je suis désolé, mais t'es obligé d'aimer, quoi. Enfin, tu peux pas, au niveau du look, tu peux te permettre des trucs avec Harley Quinn, au niveau couleur et tout. Enfin, c'est la seule que tu peux habiller, maquiller.
Et puis, tu vois que James Gunn, il fait attention aux détails, tu vois, il lui fait arracher des trucs de, elle se bat avec, en plus. C'est ça.
Top. Par contre, c'est vrai que pendant un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fait avec Harley Quinn? Cette histoire d'amour et
où est-ce qu'il va?
Tout ça pour le buter. En fait, j'attendais le moment où Harley Quinn allait devenir Harley.
J'ai sursauté tellement j'ai été surpris.
Oui, tu t'y attendais, je t'ai vu, ouais. Mais tu vois, moi, je m'y attendais parce que je me disais, il y a bien un moment où Harley va être Harley. Quoi. C'est obligatoire. Et très sympa parce que ça nous montre aussi... L'évolution d'Harley Quinn dans le côté je reconnais quand il y a des red flags chez un homme, quand il y a des mauvais signes tels que je veux tuer des enfants. Et là, elle dit cette fois, je me ferai plus avoir par un homme comme ça. Et c'est encore une fois une preuve de. d'évolution de son personnage qui fonctionnait très bien aussi dans Birds of Prey, ouais, où elle décidait d'être sa propre femme, d'être vraiment...
Et c'est là où je te disais, je trouve qu'il y a des liens avec Birds of Prey, ou même si c'est pas des liens directs avec des références dans les dialogues ou quoi, c'est juste dans l'émancipation du personnage qui était quand même dans le titre de Birds of Prey, hein. Et bah là, tu la vois frontalement, quoi, parce qu'elle se tape un mec, ok, mais derrière, le but, parce que, elle se rend compte, je pense qu'elle le sait dès le début, mais elle se le tape, parce que peut-être elle a juste envie de se le taper, et derrière, elle le dit plusieurs fois
qu'il est vraiment très hot, très beau,
qu'il est bien membré,
mais oui.
Elle dit même rip à sa bite.
Quand tu le vois arriver, il est genre en slip aussi, lui.
La scène avec les perroquets.
Oui,
aussi,
non, mais je veux bien, ouais, le beau gosse latin, comme ça, enfin, ouais, ça fonctionne, je trouve.
Ça la titille, et du coup, genre, elle se fait plaisir, et après, point barre, quoi, genre.
Donc il retrouve le Thinker, qui est le cerveau derrière les expériences, interprété par Peter Capaldi, que vous connaissez très certainement comme le...
5
Non.
4
Pas 5e.
Plus
Enfin.
Ah, je sais pas, moi je suis perdu avec les docteurs. Hein.
Bah, le premier dans la nouvelle version, oui, c'est le 8 ou le 9.
Ah oui, ok. Ouais, d'accord. Ah, j'étais pas du tout.
David Tennant, c'est genre le 10.
D'accord, ouais, ouais.
Je crois, hein. Ça se trouve, je vais me faire engueuler par les Wouviens. Viens, je t'attends. Donc, Starro est une étoile de mer géante avec un œil et totalement proche des comics. Tu disais, je crois que c'était avant qu'on commence, que tu l'avais lu il n'y a pas longtemps.
Moi, c'est dans un comics de Jeff Lemire, un crossover Black Hammer, Justice League Black Hammer, où en gros, tu suis d'un côté Black Hammer et d'un côté Justice.
Je connais pas Black Hammer.
Bah en gros c'est Jeff Lemire qui a créé cette, c'est une bande de personnages un super héroïque mais plus sombre et un peu plus trash. Ça serait difficile de te les résumer maintenant, mais en gros tu te retrouves avec les personnages de Justice League qui se retrouvent balancés dans l'univers de Black Hammer. Et en fait au début du film ils sont en train de se fighter juste avec Starro, enfin du comics pardon, ils sont en train de se fighter avec Starro. Et ils se retrouvent balancés pour une raison dans l'univers de Black Hammer. Et du coup, il se passe plein de trucs. Mais je pourrais te le prêter. Il est très très marrant. C'est un truc court en plus.
Non, je lis plus de comics.
Je sais bien, mais bon. J'essaye toujours.
J'ai décidé, tant que je ne suis pas capable de lire tous les bouquins que j'ai achetés et que je n'ai pas lu, j'ai pas le droit de lire des comics.
Franchement, il est court. Hein.
Voilà.
Mais ouais, du coup, je suis retombé sur Starro il n'y a pas longtemps. Et en voyant les bandes annonces, je me suis dit,
Et moi, ma première. Expérience avec l'étoile de mer, c'était dans le dessin animé Justice League, avant que ça devienne Unlimited, donc la version avant où il y avait encore que la bande de 5 ou 6, ils étaient dans la Justice League. Et en gros, l'épisode était génial, apparemment basé sur des comics qui s'appellent For the Man Who Has Everything, et c'est sur l'anniversaire de Superman, et en gros, ils se rendent compte que Superman est possédé par Starro.
Sofiane du passé dit n'importe quoi, c'est pas Starro, c'est Black Mercy. Signé Sofiane du futur.
Starro qui le force à vivre dans un monde rêvé, et le monde rêvé de Superman, c'est comme si Krypton n'avait pas explosé. Tandis que Batman, lui, est coincé dans son propre rêve, où c'est tous les jours, il se bat, il défend ses parents et il arrive à les sauver. Superman se rend compte de la supercherie parce qu'il constate que tout ce bonheur, etc., il y a un truc pas logique, alors que Batman, lui, veut rester dans le monde. Et c'est super intéressant, en fait. Ça te montre la philosophie des deux personnages.
Les deux persos, ouais.
C'est super. Et tu vois que là, Batman est vraiment humain, parce que c'est peut-être son seul défaut. Batman, il est capable de casser la gueule de tout le monde, de prendre des armes nucléaires, de les braquer sur des gens. Enfin, tu vois, il en a rien à foutre. Mais tu mets tes parents devant lui, tu mets ses parents devant lui, et c'est fini, quoi. T'as plus de Batman. Et vraiment, je vous conseille, d'ailleurs, entre nous, regardez le dessin animé de Justice League, vous allez être sympa. Eh, merci à Cléis qui a rejoint le Patreon en direct.
Il n'y en a pas beaucoup qu'on ait dédicace comme
on
ça.
On n'en a pas, ouais, c'est vrai, on ne fait jamais de dédicace, mais là on en a en direct. Donc. Et donc, Starro, personnage drôle. Quand tu réfléchis, une étoile de mer géante avec un œil. Voilà.
Il y a un potentiel.
Mais le concept. De posséder des gens en mettant l'étoile de mer sur le visage et tout, et il parle de manière.
Ça agrandit son métabolisme, enfin, genre, ça le rend plus grand, ça lui permet de se décupler, voilà.
C'est super flippant quand tu réfléchis.
Bah, toute cette scène où ils sont tous dans les cages,
ils se lèvent tous aussi, ils parlent tous en même temps,
Là, tu retrouves une vibe de certains
très
films
bonne
zombies,
idée, ouais. Parce que c'est plus ou moins The Thinker, le méchant du film.
Bon, en tout cas, c'est... ouais, bah, c'est pour moi, c'est plus le méchant que Starro au final. Qui,
oui,
genre,
Starro, c'est une victime.
Ouais, c'est une victime.
Starro avait rien demandé.
Qui après veut
se
juste
promener dans l'espace.
J'ai pas trop compris pourquoi il disait je veux cette ville, enfin, je veux conquérir cette ville.
Parce que c'est Starro the Conqueror.
Oui, oui, mais bon, genre. il pourrait très
c'est
bien.
C'est dans son nom.
Ouais, mais tu vois, il aurait très bien pu se dire eh bah, je suis libre, je me barre, tu vois, genre.
C'est bon, ça qu'ils auraient dû ramener à Kang. Lui balancer Starro à la gueule,
oh,
et qu'on n'en parle plus. Écoutez nos épisodes sur
Loki.
Ouais. Peacemaker est en fait le traître de l'équipe, plus ou moins.
C'est pas le traître au final, c'est le plus fidèle,
le plus fidèle
des
voilà,
agents.
Ouais.
Plus que Rick Flag, quoi.
Ce qui est pas vraiment étonnant, j'attendais un peu tout le film que. Mmh. Ça
bah, tu sens qu'il y a un truc derrière, ouais. Derrière le perso. Ouais.
Je sais pas du tout ce que la série va donner. Après avoir vu la.
Bah, vu que c'est chapeauté par James Gunn, je suis pas trop inquiet en ayant vu le film là, mais je pense que ça va être un truc mini-série où bah, ça va être. Très drôle.
Combien
très...
d'épisodes ils ont dit ?
Je sais pas du tout. Ah, okay. Très drôle, très trash et.
Oui, pour les gens qui ne savent pas, ils vont faire une série sur HBO Max, donc sûrement sur OCS pour nous, j'imagine, qui tournera autour du personnage de Peacemaker incarné par John Cena.
Une saison 8 épisodes.
8 épisodes ?
Ouais.
Ok, donc ils suivent le modèle plus.
Créé par James Gunn, du coup.
Plus le modèle Disney Plus. Ok, c'est bien. Ils font pas des séries de 15 épisodes où ça va s'étirer. Par contre, 8 épisodes sur Peacemaker, putain.
Ouais, mais je pense qu'il n'y aura pas que lui dans
non,
la série.
Non, bah,
tu
j'espère
vois.
Bien, mais ouais. Quand même, ce serait...
T'imagines une série
8 épisodes avec John Cena qui joue la justice, là. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, ça me saoulerait pas mal, je pense. Il tue Rick Flag, donc t'étais un peu triste. Parce
ouais,
que
j'ai... Bah, parce que le film a bien fonctionné, quoi. Donc, c'est que je me suis un peu attaché à lui et j'ai été un... Bah, je m'attendais pas à ce qu'il le bute, en fait, genre... Je pensais qu'il est laissé pour mort et t'as cette scène où tu vois carrément
le, coeur,
le
ouais.
Truc rentrer dans le cœur, quoi. C'est
ouais,
le James Gunn viscéral, quoi.
Ouais, et ça te prouve jusqu'au dernier acte, il y a des gens qui vont mourir.
Ah ouais, ouais.
Et contrairement à Suicide Squad, le premier, tu t'es attaché au personnage. Sauf que dans Suicide Squad, il y a même personne qui meurt. Il hein, mm-hmm. Y a qui meurt. Si, il y a l'autre qui fout le feu.
Ouais. Enchantress qui passe peut-être. Non,
Enchant,
même
bah
pas.
Oui, Enchantress.
Enchantress.
Enchantress. Ça, ça faisait longtemps. Faut jamais perdre le coup d'épaule.
Tu sais que j'ai pensé. Tu vois la scène dans le bar quand ils.
Ils vont tous dans le bar, ça m'avait pensé à dans Suicide Squad. Mais ils vont. Mais oui, il y a la scène.
Il y a une scène dans le bar où t'as des nanas qui dansent et j'ai un peu trop excité la danse d'Enchantress.
Enchantress. Ah, ça faisait longtemps, j'avais oublié. Polka Dot Man a une mort de super-héros.
Ouais.
Il voit sa mère géante. Très.
Tu vois, c'est pareil, tu vois, je m'attendais à ce que ce personnage-là meure. Mais encore une fois, sa mort, elle est abrupte, quoi. D'un coup, c'est.
Je m'y attendais plus, moi.
Ah ouais non. Oui, c'est vrai que t'avais la petite team de fin.
Ouais, voilà.
Au moins, enfin, King Shark, il meurt au moins 4
si
fois,
y a une
mais
suite.
Il meurt pas.
King Shark, il meurt pas mal de fois.
Et il revit, en gros.
Mais il y a même un moment où il y tire tous à bout portant sur lui et
il juste, il se protège un
il
peu.
Il se protège un peu.
Et après, il se relève. Il déchique
King apparemment. Charge apparemment c'est le descendant d'un dieu ou un truc comme ça c'est ça les...
un dieu requin ouais.
C'est quoi les drôles de petites bestioles qui s'attachent à
je
lui
je sais pas
des trucs qu'ils ont trouvé avec Starro ou...
ouais je pense que c'est une ref
ouais.
Un truc un peu cosmique de DC mais
ça,
j'ai
ça
pas...
va être très Pixar. Tu trouvais pas un peu
ouais.
Leurs grands yeux et tout là,
oui,
mais quand ils sont
oui,
tout
oui.
En mode tout gentil tu vois après ça attaque mais...
ouais, ouais je pense que c'est vraiment là pour le coup je pense qu'il y a un vrai clin d'œil que moi j'ai pas perso mais
moi non plus, ouais, je sais pas.
Bon, sur Patreon, ils sauront nous dire.
Ben oui, ils savent tout.
Enfin,
ils ont Google.
Le Discord plutôt.
Ils ont
aussi.
Oui, rejoignez-nous sur le Discord. Hein. Y a toujours des bonnes conversations, c'est toujours cool. Ratcatcher tue Starro.
Oui, grâce au pouvoir des rats.
Voilà. Et Harley aide, entre guillemets.
Au final, elle fait rien du tout.
À partir du moment où elle dit « je sais ce que je vais faire du javelot », je me suis dit « bon, bah ça va dans l'œil de Starro ».
Ouais, mais au final, ça sert à rien ce qu'elle
non,
fait.
Non,
juste, elle se baigne.
Je me demande même, est-ce qu'elle ouvre l'œil
non,
ou non,
mais
même
non,
pas.
Parce qu'en fait, quand elle traverse...
C'est une sorte de... C'est
traverse,
de l'eau, quoi.
Ouais, elle se retrouve dans un liquide directement, ouais. Donc il n'y a pas de... C'est comme si tu essayais de transpercer de l'eau avec un bout de bois, quoi.
Donc son javelot, elle sert à rien,
non,
en fait.
Non, ça sert à rien.
Et ça lui va bien, le javelot.
Et ça permet juste, en fait, à la caméra de suivre Harley et de voir les rats en train de bouffer les nerfs optiques. De...
Dans tous les films, il lui donne une arme, hein, un peu, non ? C'est quoi dans Birds of Prey ? Je me rappelle plus si elle a une arme.
Bah, elle a pas un...
Dans les comics, c'est son marteau, normalement.
Ouais, bah, il y a le marteau, il y a
la
batte de baseball. Ouais. Et dans... Qu'est-ce qu'elle
a ? Je me rappelle plus si elle a un truc
dans Birds of Prey. Elle a pas une espèce de gun... Non, je crois que... Mais non, elle a le marteau.
Elle a le marteau ?
Elle a le marteau, oui. Mais oui, il était même dans la promo et tout. Il y avait des Colin Morris avec le marteau le marteau des comics, quoi. Espèce de truc de Tex Avery, quoi.
En effet, il est plus petit, ouais, en fait. Ok, c'est pas petit, comme dans les comics, il est pas super grand.
Il est pas disproportionné. Ouais.
C'est vrai que dans Birds of Prey, ils avaient décidé de l'habiller d'autres couleurs, un peu.
Oui, avec
sa veste, elle déchire.
Celle de fin.
Ouais, la veste avec tous les trucs de toutes les couleurs là.
Parce qu'elle avait une espèce de combi jaune fluo aussi dans le film.
Mais en tout cas, au niveau des looks, ils arrivent toujours à trouver des. On peut dire ce qu'on veut sur le premier. Il était mémorable son look.
Oui, oui. On aime ou on n'aime pas,
on
mais
aime
c'est vrai
on
qu'il
aime
était
pas.
Iconique en tout
là,
cas.
Là, ils arrivent toujours à trouver un nouveau look pour Harley Quinn. Là, quand on l'a en cuir... Pour une fois, elle a un pantalon, putain.
Dans celui-là?
Oui. Elle est en...
Ah, au tout début?
Au tout début.
Oui, elle est en vraie combinaison.
Elle est en lance-roquette.
La combinaison qui fait très harlequin pour
voilà,
le coup.
Voilà, qu'elle est avec son lance-roquette.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle a écrit dans le dos? Un truc avec clown?
Die Clown, je crois que c'est genre Live quelque chose. Die,
ah, Live Fast, Die Clown.
Ça,
okay, ouais. C'est le personnage qui, au final, tu te disais qu'il aurait peut-être le moins de pouvoir. Qui tue le méchant.
Ouais.
Mais c'est quand tu réfléchis, si t'as le pouvoir de... T'imagines à Paris ou à New York ou un truc comme ça, quand t'as le pouvoir de contrôler les rats.
Hein.
Sérieux, tu peux faire une... Tu peux t'amuser à contrôler tous les rats et à les faire te monter jusqu'en haut de la tour Eiffel, si tu veux.
Tu sais que dans le film, je m'attendais presque à ce qu'il y ait un espèce de kaiju rat qui se forme avec tous les rats. Hein. Je me suis dit, on n'est pas loin d'arriver à ça.
Petite référence d'ailleurs, un des gars, parce qu'on voit beaucoup le staff d'Amanda Waller.
Oui, je voulais en parler un peu de ça, parce que c'est, pour le coup, ça fait vraiment aussi un peu parallèle avec le premier film, où bah, tu voyais aussi des scènes... Parce qu'en fait, t'as toujours la menace Amanda Waller avec ce principe des puces intégrées dans chaque personnage de la Suicide Squad qui peuvent du coup exploser à tout moment s'ils respectent pas la mission. Et là, en fait, le principe est un peu retourné sur la fin où bah, t'as un vrai coup de... Comment on appelle ça? Un coup d'état, quoi, dans le bureau d'Amanda Wallers, quoi.
Oui, mais c'est un coup d'état où quand elle se réveille, ils font tout ce genre de rien, comme si, en gros, elle saura jamais qui l'a tapé. Elle saura jamais qui est la personne qui a pété les plombs, tu vois. Ils font tout ce genre, là, 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 l'air de rien, comme...
Oui, t'en vois en train de bouffer les chips devant l'écran.
Ouais, c'était sympa ça d'avoir parce que sinon c'était juste Amanda Waller derrière son écran.
Oui,
on a déjà
un peu
eu
plus
ça.
D'intérêt
voilà,
à
ça
cette
donne
dynamique
un, voilà.
Là, quoi.
Bonne idée, James.
Et d'ailleurs, le staff qu'on revoit dans la scène post-générique qu'on a failli louper.
Qui?
Le
ah,
staff.
C'est le staff. Ouais,
ouais
c'est vrai,
le staff
on voit.
Qui...
Donc, ils seront sûrement dans la série, j'imagine.
Il y a moyen, ouais.
Ils remplaceront Amanda Waller, qui doit être trop chère pour être dans la série.
Ah, Viola Davis dans 8 épisodes.
Ouais.
C'est pas Murder, quoi.
Donc, les survivants du Suicide Squad utilisent les dossiers sur le gouvernement US et Starro pour obtenir leur liberté auprès de Waller.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de tout ce truc-là, mais du coup, Pacemaker...
Franchement, le plot principal avec l'île et les coups d'État et les machins, on s'en fout.
Ah non, mais c'est
ça
pas,
fait
c'est,
très
c'est,
années 80,
c'est fait exprès,
ça fait très Expendables, ça aussi, tu vois.
Ah bah ça rappelle un peu le premier film.
Ouais,
hein,
le premier, moi ça m'a fait penser, mais
tout,
c'était ça m'a fait penser au premier Expendables
à
mort.
Ouais. Ouais, clairement.
Et donc ça finit comme ça, voilà. On a deux scènes post-crédit. Donc une tout de suite, hein, c'était pas vraiment post-crédit,
ouais, c'est directement après.
Après
le titre du film.
On voit que Weasel est en fait en vie. Parce que c'est vrai, on l'a pas dit, mais Weasel, il meurt. C'est le premier à mourir dans
c'est
le film.
C'est le premier à mourir en se noyant.
En se noyant, comme
ouais.
Un con.
Du coup, il s'est pas noyé. Mais...
c'est très drôle. Franchement, c'était une très bonne idée d'avoir juste.
Surtout que pour le coup, dans la promo, c'était un des personnages qui
oui,
était un peu
c'est
mis
un personnage
en avant
en CGI
pour son côté
et tout,
bizarre.
Tu vois, c'est un personnage en CGI, donc tu te dis, ah, ils vont moins le montrer un peu plus. Non, c'est le tout premier à crever, il crève comme une merde, et voilà. Et c'est pas juste drôle parce qu'il meurt comme ça, c'est drôle parce que Amanda Waller, elle dit, il y a personne qui a vérifié qu'il savait nager.
T'as un énorme plan.
C'est vraiment une équipe de merde, quoi. Et le deuxième, c'est pour nous montrer que Peacemaker est dans le coma et donc en vie, pour nous montrer. Enfin, pour.
Bah, c'est pour teaser son retour, pour faire comprendre qu'il y a pour ceux qui savent pas qu'il y a la série, ils peuvent s'attendre à un retour sans savoir comment ça sera. Il y a un retour, quoi.
Parce que c'est John Cena. On l'a fait combien de fois dans cet épisode? On l'a pas assez fait, je pense.
On l'a fait surtout en sortant de la salle.
En sortant de la salle, c'est le premier truc qu'on a fait, je crois. Oh my god, c'est John Cena. Bah voilà.
Bah oui.
Qu'est-ce que t'as pensé de The Suicide Squad?
Bah, comme tu le sais, moi j'avais. Des attentes, enfin j'étais confiant depuis l'annonce du projet parce que James Gunn et au final les critiques arrivaient et je sentais le projet qui ça flairait bon et pas déçu, pas aussi exceptionnel que la manière dont il a pu être un peu vendu, mais ça c'est de toute façon c'est un peu toujours la même rengaine, mais moi j'ai été vraiment conquis un bon blockbuster de l'été, quoi, comme ouais. on n'en fait plus en soi, enfin, comme j'en ai pas vu depuis longtemps. Crade, gore, enfin, vraiment, genre, qui assume son concept jusqu'au bout et qui le fait bien. Mmh. Et c'est ça que j'aurais voulu voir en 2016, quoi.
C'est vrai que ce film, hélas, passe un peu après beaucoup de films.
Bien sûr. Ouais.
Et il imagine, franchement, si ça avait été ce Suicide Squad-là qu'on avait eu à l'époque. Franchement, DC Alternative aurait été beaucoup plus sympa à faire, je vous le dis.
Et puis, je pense que Deadpool serait allé se rhabiller aussi. Hein.
Ouais.
Parce que en termes de rated R, entre Deadpool et ça, il y a quand même une classe d'écart encore.
Non, et puis là, c'est bien fait. Mm. Moi, perso, bonne surprise parce que j'attendais pas grand-chose.
Ouais, c'est vrai que toi, t'étais plus réfractaire.
Alors, en plus,
ouais.
James Gunn m'avait un peu refroidi sur le dernier Guardians. Bonne surprise. Je vois vraiment un mec qui aime l'univers,
ouais,
qui aime les persos,
quoi.
Qui aime les films des années 80 d'action, qui aime les 12 salopards. Non mais tu le sens. Quoi.
Ah bah bien sûr,
tu sens vraiment.
Ultra référencé.
Et moi, à partir
hein.
du moment où c'est un mec que... Parce que David, d'ailleurs, j'avais pas l'impression qu'il aimait non plus tant que ça les persos. Il aimait les rendre cool, mais il avait oublié ce que c'était l'essence des persos, tu vois. Alors que là, tu sens vraiment un mec qui aime ce qu'il fait. Et rien que pour ça, moi je dis oui. Je dis oui, et en plus, surtout quand on compare à ce que le DCU m'a offert avant, et vous savez tous à quel point j'ai rarement été fan. Ouais.
Bah, c'est moins cérébral que
j'ai préféré films, à Birds of Prey, par exemple, tu vois.
Ouais, moi aussi, voilà, même si j'ai
bien aimé. Voilà, on avait bien aimé Birds of Prey, il faudrait que je le revoie pour vraiment me faire mon idée. Mais je pense que. Non, je vais pas le dire.
Ça y est.
Non, je réfléchis. Est-ce que je le dis? Je crois que c'est peut-être mon film du DCU préféré.
Yes.
Mais ça veut pas dire qu'on en est encore... Attends, DCU, il y a eu quoi d'autre sinon?
Shazam,
Aquaman. Donc Birds of Prey.
Ah, est-ce qu'on parle encore de DCU en vrai? Enfin,
Man
non.
of Steel, Batman v Superman.
Après, c'est des films qui ont tellement rien à voir.
Il y a toujours Margot Robbie, enfin, tu vois.
Oui, mais si tu prends un BVS et tu prends ça, c'est très dur à comparer, quoi. Enfin, c'est censé être le même univers et compagnie, mais enfin.
Non, mais je veux dire, enfin, tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
Depuis Man of Steel, je pense que, parce que d'habitude, même quand j'aimais bien, il y avait toujours des trucs qui me. Là, j'aime bien.
Mais c'est décomplexé.
Je dis pas que c'est génial. Hein. Je suis loin de dire que c'est génial. Je dis qu'il est peut-être sorti un peu en retard et tout. Enfin, tu vois.
Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Enfin, c'est pas un film qui révolutionne quoi que ce soit. Mais c'est un film qui fait bien les choses.
En tant que fan de DC depuis que je suis né, ça me fait plaisir.
Bah, c'est ça.
Voilà.
Et je pense que James Gunn, il demande rien d'autre que de faire des films qui font plaisir aux.
Comme la série animée Harley Quinn m'a fait plaisir.
Ben voilà, mais pour moi, tu vois, c'est un peu ce même genre de
délire,
exactement. Voilà. En termes d'approche du comics, bah, c'est des trucs qui rendent hommage, qui savent faire les choses bien et qui en font pas trop, qui les font comme il faut et qui adaptent de la bonne manière.
Je pense que c'est le genre de film, tu vois, quand tu le vois la première fois, tu vas faire ah, ok, et c'est un film à revoir.
Ouais, il y a moyen, ouais.
Genre dans 3-4 mois, tu te le refais, dans 6 mois, tu te le regardes et tu vas faire il était quand même sympa.
Bah, moi, je sais que là, je suis allé en y allant avec toi, j'ai un peu. Pris les devants parce que je sais que j'ai toute une bande de potes derrière qui ont un peu envie de le voir et qui attendaient un peu de savoir, tu vois, ce que ça donnait. Bah,
alors Max,
allons-y.
J'ai hâte de le revoir retourner. J'aimerais bien le voir faire plein de trucs en fait.
James Gunn.
Ouais, c'est que je suis content qu'il refasse Guardians parce que je vois personne d'autre que lui pour faire Guardians. Ce serait bizarre. Ce serait vraiment bizarre parce qu'il a vraiment tout mis, surtout dans le dernier là où il a vraiment tout mis. Mais en même temps. Je sais pas. Il y a un truc qui me dit putain, un film Arkham avec James Gunn. Pas Batman.
Oui, Arkham, ouais.
Tu vois, genre les gars d'Arkham qui doivent faire équipe ou un truc dans le genre. Tu vois, genre tu peux le faire, tu peux me dire vas-y, on fait un film rated R, parce que le gros problème dans le MCU c'est qu'il fera jamais rated R.
Non, bah
sauf si Blade, on verra avec Blade.
Avec
en fait,
Blade, même avec Deadpool, avec... mais.
Ouais, Deadpool et Blade, ça va vraiment nous donner l'idée de.
C'est ça.
Étant donné que maintenant, ils ont créé le truc sera... Stars sur Disney+, tu peux te dire.
Ça sera pas aussi hémoglobine que celui-là, par exemple.
Non.
Quoi. C'est sûr que non.
Et James Gunn, je pense qu'il s'éclate dans un univers comme ça.
Après.
Un univers qu'il connaît, qu'il gère, qu'il adore, et en plus, on lui dit fais-toi plaisir comme un enfant, quoi. Et...
Après, moi, je serais curieux de voir James Gunn sur autre chose que du comics maintenant.
Ah, oui, oui.
Parce que ce qu'il a fait avant, il y a des très bons trucs. Il y a des trucs... Tout n'est pas excellent, mais il était aussi plus jeune
je
et peut-être
trop,
moins expérimenté. Mais franchement, il y a moyen... S'il s'écarte un peu du côté comics et qui fait ses propres films. Parce que là, c'est lui qui est au scénario. Hein, c'est, il est crédité tout seul au scénario de ce film-là.
Je crois bien. Ouais.
Ouais. Moi, je pense qu'il peut. Parce que là, c'est quasiment du blockbuster d'auteur.
Et il l'a écrit très vite, ce film. Ouais. Aussi.
Après, il n'est pas non plus. C'est plus les dialogues qui sont intéressants. Enfin, les.
Ouais, mais il y a beaucoup de personnages à gérer.
Ah, oui, bien sûr. Ouais,
en rebondissement, de gestion. Trucs, Il l'a écrit très vite.
Mais je pense qu'il a été aussi bien rodé avec l'écurie Marvel Studios qui a su, je pense, lui faire un peu comprendre comment fonctionnait plein de trucs parce qu'il fait quand même partie du pool.
Mais là, il n'y a pas de Kevin Feige au-dessus de lui.
Ah non, il n'y a pas de Kevin
Feige. Là, il a vraiment fait le film qu'il voulait faire. Mais par contre, je pense que Feige ou non, Guardians 2, c'est aussi le film qu'il voulait faire.
Bien sûr. Voilà. Ah oui, non, mais c'est dans un autre ton. Mais...
Je pense qu'après le premier Guardians, il a obtenu carte blanche pour faire ce qu'il voulait dans le 2. Mais là, vraiment, là, en dehors des connards de Warner, mais je pense qu'il y a eu tellement de changements de niveau production Warner que c'est plus du tout les gros cons de l'époque qui gèrent. C'est pas les mêmes gars qui ont géré ailleurs, quoi. Et je pense qu'ils ont retenu leurs leçons aussi.
Mmh. Mais tu vois, j'imagine James Gunn qui fait Guardians of the Galaxy 2 aujourd'hui. Mmh. Ego, c'est pas un humain, c'est une vraie planète.
C'est une
vraie
planète.
Tu vois, il l'aurait fait.
On l'avait pas dit, non, non.
Oh, c'est possible.
Dans l'épisode sur Loki, là, le dernier.
C'est pas impossible.
Ouais. On avait dit, ouais, je pense que si Ego était fait de nos jours, ce serait une vraie planète qui parle. Ouais.
Et tu vois, ça revient un peu là-dessus avec ce qu'il adapte là-dedans, quoi. Mmh. C'est la suite logique. Du développement de James Gunn dans les films de comics, quoi.
Ouais. Bon, bah voilà, The Suicide Squad, une bonne surprise, sympathique, ouais. C'est l'été, faites-vous plaisir. Il y a des très bons films au cinéma en ce moment, donc je sais qu'il y a beaucoup de choix. Donc, franchement, allez voir un film par jour et vous serez bien. De toute façon, le cinéma est revenu.
Il fait frais quand il fait
chaud. Si vous êtes vacciné, allez-y. Voilà. Et si vous n'êtes pas vacciné, bah, vous savez quoi faire. Vous pouvez nous retrouver sur Patreon comme d'habitude. On a fini tout Loki là. On s'est éclaté à faire Loki. Oui. C'était super sympa. On a fait toutes les séries Marvel maintenant.
On est à jour.
On a fait WandaVision. On a fait Falcon et Winter Soldier. Et on a fait Loki. Et franchement, c'était trop cool. Je pense qu'un de ces quatre, je vais peut-être mettre les épisodes de WandaVision en ligne pour les autres qui ne sont pas sur le Patreon. Je ne sais pas quand, je le ferai peut-être pendant l'été, ça dépend, je ne suis pas sûr. Et sinon, on a plein de vidéos et de trucs comme ça. Enfin, de vidéos audio. Voilà.
Vidéo audio.
On a plein de vidéos audio, les gens. Donc, c'est sur patreon.com/plan-séquence et vous pouvez nous suivre sur Twitter, MCUDCPod.
Yes.
On se retrouve pour Shang-Chi.
Oui.
En septembre. Et sur Patreon, vous pouvez nous retrouver pour les What If aussi. On va faire la série What If.
Qui risque d'être relié au MCU d'une manière auquel on ne s'attend pas. Donc préparez-vous quand même.
T'attends quoi de Shang-Chi là ?
Shang-Chi ? Pas grand-chose.
Non.
Comme ça,
pas de déception.
Pas de déception, pas de méga hype. En plus,
ouais,
c'est pas un personnage
que je connais.
Ouais, la
bande-annonce m'a pas non plus trop hypé, quoi.
On verra. Mais je pense que c'est une origin story dans son coin. Donc ça sera peut-être un peu moins intéressant si on s'intéresse à la phase 4 pour le développement. Global, quoi.
Le truc avec le MCU, c'est que les origin stories, la plupart du temps, sont nulles.
Bah, c'est pas qu'elles sont nulles.
C'est une fois que les personnages peuvent interagir avec le reste de l'univers que là, ça devient intéressant.
Ils prennent tout leur sens.
Voir Doctor Strange.
Bon, mais tu vois, Eternals, ça va être une origin story, mais là, pour le coup, je suis curieux et intéressé.
Ouais.
Bah, Eternals, IP, mais...
Eternals, ça a l'air beaucoup plus ambitieux.
Bah, un peu, oui.
Ouais. Mais après, ce que j'aimerais bien, c'est que c'est la première fois où il va y avoir des vrais arts martiaux dans le MCU.
Ah, mais ça, c'est intéressant de voir comment ils vont le traiter.
J'espère que ce sera bien fait,
ouais.
Quoi, parce que c'est un truc qui manquait un peu du vrai combat corps à corps, tu vois. Il n'y a pas trop ça dans le MCU.
Non, non.
Enfin, voilà. On se retrouve à la rentrée, hein.
Bah, pour ceux qui sont pas sur le Patreon, on se retrouve à la rentrée.
On se retrouve à la rentrée. Salut tout le monde.
Salut à tous, merci. There's smoke in the sky again, so I'm getting high again. Take another hit to the diaphragm. I never drew the diagram. How to deal with this shit, so I steal and lie again. Whoa. You're my dream, you're my nightmare. Life is a bitch, she don't fight fair. Leave you right there. I was hoping that you'd notice my despair. Run away from the pain.